je suis très, très, très sceptique, disons, de la conception contemporaine de la liberté. Parce que 9 fois sur 10, c'est une liberté qui est orientée. Parce qu'il y a juste un choix sur deux qui est vu comme étant libre.
Mm-hmm.
Puis quand ceux qui vont se servir de cet argument-là, c'est à cette fin-là. T'sais, c'est pour te mettre un peu dans un entonnoir. Puis d'une certaine manière, puis là, encore une fois, c'est un peu la déformation de personnes qui écrivent des livres de philo. Mais je pense que c'est quand même utile. T'sais. Moi, j'ai toujours préféré quelqu'un qui a une vision du bien qui est différente de la mienne, qui va l'assumer, puis qui va me dire « voici pourquoi t'as tort. Voici pourquoi c'est ça qui est objectivement bien pour l'ensemble et donc pourquoi tu devrais le faire. »
Mm-hmm.
Mais plutôt de dire « ça, ça respecte pas un droit à X », pour vrai, moi, ça me satisfait pas philosophiquement.
Dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé d'Étienne-Alexandre Beauregard, cette étoile montante de la sphère intellectuelle. Il vient d'écrire son troisième ouvrage qui s'appelle « Anti-civilisation » aux presses de la Cité, premier livre qui est sorti aussi en France. D'ailleurs, on l'a beaucoup vu sur des plateaux français et ici au Québec. J'ai eu le bonheur de m'entretenir avec lui du sujet de son livre, qui est finalement « Pourquoi sommes-nous rendus dans une civilisation, dans une société avec autant de pertes de repères? » Il nous amène aussi des pistes de solutions, ce qui est bien, on ne fait pas que nommer les problèmes, on parle de solutions. Je vous souhaite une excellente écoute. Ça, on a déjà survolé 150 sujets.
On a tout dit, on peut fermer les livres.
C'est pas dommage pour ceux qui n'écoutaient pas encore. Étienne-Alexandre Beauregard, je suis super contente de te recevoir. Je pense que tu es le plus jeune invité que j'ai reçu jusqu'à ce jour.
Bon, c'est bon.
Puis en plus, tu es probablement un qui m'a demandé le plus de préparation parce que il y a du stock. Tu viens de sortir un livre. Et c'est quand même un bon livre, là. Il y a 350 pages à peu près. Il y a du contenu et l'analyse que tu fais est tellement profonde sur notre civilisation. Tu l'as appelé anti-civilisation. Il y a beaucoup à dire. Mais avant de rentrer, parce que tu es assez nouveau sur la sphère publique, excusez ma voix en passant à tous ceux qui écoutent, puis vous dites « Mon Dieu, c'est pas Héloïse, c'est un clone. » Non, j'ai une extinction de voix. Bon, ça va être ça pour aujourd'hui. On te voit un peu comme le protégé de Mathieu Bock-Côté. C'est beaucoup moi, c'est grâce à Mathieu que je t'ai connu. Il te partage à gauche, à droite. C'est lui qui a fait ta préface. Mais dis-moi, d'où viens-tu?
Qui suis-je? Ça, c'est une grosse question. Mais moi, je viens de la région de Québec. En fait, j'ai grandi à Cap-Rouge, donc en banlieue de Québec. J'ai étudié en philosophie, sciences politiques. Maintenant, je suis en train de terminer une maîtrise en administration publique. Ça fait longtemps aussi que je suis impliqué, moi, à la fois dans la sphère des idées et dans la sphère vraiment politique. Jusqu'à tout récemment, j'étais rédacteur des discours pour le premier ministre, M. Legault. J'ai fait ça pendant 3 ans avec lui. J'ai aussi publié 2 autres livres qui étaient sur la pensée politique québécoise avant, Le schisme identitaire en 2022, Le retour des Bleus en 2024.
Publié au Québec seulement.
Oui, exact. Sur la pensée politique québécoise, tandis que là, Anti-civilisation, qui sort le 31 octobre, c'est vraiment un livre qui est publié en France, mais qui s'adresse en fait à l'ensemble du débat occidental, là, parce que j'ai des exemples qui sont américains, britanniques, français, québécois, canadien, donc ça ratisse assez
large. On sent quand même que ton public pour celui-là, c'était de le lancer en France. C'est quand même très adressé au public français.
Oui, mais...
Non, mais je me sentais quand même concernée. Je me sentais pas rejetée, mais je sentais que tu l'avais écrit dans cette optique-là, du moins.
Je sais pas si je l'ai écrit dans cette optique-là. Je pense que c'est un propos qui est assez universel. Puis beaucoup, beaucoup d'exemples, beaucoup de penseurs que je cite qui viennent du monde anglo, que justement les Français connaissaient un petit peu moins, je pense que ça leur a plu. Puis d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais je pense que comme intellectuel, on fait œuvre utile aussi quand on est capable de mélanger un peu les traditions de pensée comme ça.
Vraiment.
Puis d'ailleurs, même dans l'espace public québécois, avec mes 2 livres précédents, c'était une fierté aussi de montrer comment la pensée politique québécoise peut dialoguer avec la pensée américaine, française, britannique. Parce que souvent, j'ai l'impression que c'est pas tous les intellos qui font cet effort-là, mais on n'existe pas dans une bulle non plus, on n'est pas à l'abri de ces courants-là. Je pense que c'est intéressant quand on est capable d'avoir ces dialogues-là.
OK. Mais écoute, je trouve ça surtout surprenant qu'un si jeune homme, est-ce que j'ai le droit de dire ton âge? Tu vas pas t'en vexer?
Non, ça va.
Tu vas avoir bientôt 25 ans?
Eh ouais.
C'est quand ta fête?
Le 16 décembre.
OK. Donc, bientôt, ce sera ton anniversaire, mais pour l'instant, tu as encore 24 ans. Je suis quand même totalement fascinée à essayer de comprendre c'est quoi le parcours d'un jeune homme pour en être venu à avoir une telle culture à un si jeune âge. On s'entend que t'es pas la norme en ce moment dans notre génération, surtout dans ta génération. T'as de l'air à dévorer des livres, t'as une culture phénoménale. J'en déduis que tes parents ont eu un gros rôle à jouer. Dirais-tu que l'école a eu un rôle à jouer? D'où vient cet intérêt-là?
Ouais. Là-dessus, je pense que je vais plus donner le crédit à mes parents qu'à l'école. Je pense qu'on a toutes sortes de raisons d'être critiques du système scolaire aujourd'hui. Puis, moi, j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui ont toujours été un peu plus intello, qui ont fait des études universitaires, qui ont un amour pour la culture, pour les livres, etc. T'sais, moi, j'ai toujours grandi avec des livres. Puis c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis tombé assez jeune. Là. Fait que savoir comment on se rend là, c'est juste en étant un gros nerd, en fait. C'est très facile.
C'était dans ta génétique.
Oui, exactement, exactement. Puis d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais je pense que malheureusement, aujourd'hui, dans le système scolaire, parce qu'on tend à vouloir niveler vers le bas, parce que on pense qu'on rend service en enlevant du programme les livres qui sont plus exigeants, en enlevant cette volonté-là, justement, d'amener l'élève ailleurs que où il est déjà, on fait en sorte que ben, c'est les gens comme moi qui ont la chance de grandir dans un milieu où les livres sont présents qui vont moins souffrir de ça. Puis moi, c'était d'ailleurs un combat que j'ai toujours mené quand j'étais dans les ailes jeunesse, etc., de ramener un cursus de grands livres obligatoires. De dire que s'il y a des œuvres qui sont majeures dans l'histoire de la civilisation occidentale, ça serait normal que la plupart des gens les connaissent. Ça serait normal qu'on les fasse lire à l'école plutôt que souvent des espèces de romans pop ou pire encore, des romans traduits.
Poche. Exact. Je te dis pop, mais je dirais même souvent, c'est pas une lecture qui va susciter la curiosité ou l'intérêt des jeunes.
Ouais. Puis c'est ça, dans le sens qu'on on sert personne en faisant ça.
Exact.
Puis je sais pas derrière quoi on se cache en pensant ça, mais je pense que le nivellement vers le bas, pour vrai, c'est un scandale dans notre système d'éducation.
Dirais-tu le nivellement vers le bas que c'est un fait ou que c'est un accident de d'autres circonstances? Ça y est, c'est ce temps de l'année où il commence à faire trop froid pour qu'on marche constamment nu-pieds dans le gazon et donc on ne peut plus faire notre mise à la terre ou notre grounding. Savez-vous à quel point c'est important de se reconnecter à la terre? Et non, ce n'est pas un concept un peu abstrait ou ésotérique. Quand on est dans une maison, au travail, on est vraiment bombardé d'ondes, de champs électromagnétiques élevés. Et eux, ils sont dommageables pour notre santé, que ce soit le Wi-Fi, le Bluetooth, les ondes cellulaires, la 5G. Finalement, ce que ça fait, c'est qu'on devient surchargé en ions positifs et on ne retrouve pas notre charge neutre. Alors, pour ce faire, juste marcher nu-pieds dans le gazon peut vraiment nous aider à rétablir parce que comme c'est bien fait, pareil, la nature, la Terre a une charge naturelle négative. Donc, en se groundant, on va retrouver une charge électrique neutre. Si on ne fait pas ça et qu'on est toujours en surcharge d'ions positifs, on va finir par avoir du stress oxydatif, un mauvais sommeil, des douleurs chroniques et là, tous les problèmes qui peuvent découler finalement du stress oxydatif. Alors, c'est pourquoi, il y a à peu près un an et demi, quand j'ai pris conscience que c'était important d'avoir une hygiène au niveau des ondes dans ma vie, on a décidé d'acheter les draps Grounding Well que j'utilise déjà depuis plus d'un an et demi, que j'adore. Ils sont en super qualité, sont en coton 100% biologique, tissés avec un fil d'argent sterling, donc un excellent conducteur. Et ce que ça fait, c'est pendant que je dors, ça me fait faire mon grounding naturellement. Les usagers qui l'utilisent remarquent une meilleure qualité de sommeil dès les premières nuits. On voit aussi moins de douleurs, une meilleure récupération. Il y a plein d'avantages à faire du grounding. Et c'est pas juste en dormant, ce qui est vraiment formidable sur Grounding Well. Il y a aussi des matelas de sol. Si vous faites du travail d'ordinateur, vous pouvez même faire votre mise à la terre pendant que vous travaillez. Alors, je vous laisse observer les produits qu'ils ont sur leur site au groundingwell.com et n'oubliez surtout pas mon code promo GW et l'on veut le savoir.
Je pense pas que les gens le font par volonté. Il y a personne. Moi, je pars quand même du principe que la plupart des gens pensent bien faire quand ils font quelque chose. Je pense que c'est charitable de penser comme ça.
Oui.
Mais cela dit, il y a quand même cette idée-là qui est quand même assez forte dans les dernières années, là, puis au Québec, on dirait au moins depuis la réforme pédagogique, où c'est l'idée que, tu sais, la pire connerie qu'on répète comme si c'était intelligent, là, qu'une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. OK, moi, je ne connais personne qui a une tête bien faite qui est vide. J'en connais zéro. Okay? Puis si on pense comme ça, ben, au final, on fait des gens qui ont ni un ni l'autre. Parce que, par exemple, pour... tu sais, la philo, il y a beaucoup de logique là-dedans. Là. C'est pas juste de connaître des penseurs, mais en même temps, pour être capable de faire les liens entre un puis l'autre, de voir c'est quoi la différence entre Platon, Aristote, etc., encore faut-il que tu aies lu Platon puis Aristote, tu peux pas avoir le côté discernement, le côté comparaison, le côté articuler la logique si t'as pas lu la base. Puis je pense que ça a été l'erreur fondamentale en éducation de dire que justement les connaissances générales, c'était plus important. Une autre des choses qui, moi, m'a beaucoup marqué dans mon parcours, c'est quand je suis allé au Collège Saint-Charles-Garnier à Québec, donc collège privé, scandale pour nos amis de l'école ensemble. on avait un parascolaire, ça s'appelle Génie en herbe, qui était beaucoup plus populaire jadis, qui maintenant s'est rendu un truc, justement, d'école privée pour nerds.
Pour vrai?
Parce que les autres le font plus. Il y a quelques écoles publiques avec des gens qui tiennent ça vraiment à bout de bras puis que j'admire, mais la plupart des collèges qu'on voyait là-dedans, c'était des collèges privés. Puis c'était des gens comme moi, justement, qui avaient un intérêt pour les connaissances générales puis tout. Mais les plus gros apprentissages que j'ai eus au secondaire, je les ai eus à Génie en herbe bien plus que dans mes classes. Fait que, tu sais, juste d'avoir des choses comme ça, c'est là, en fait, que tu apprends encore aujourd'hui. C'est triste à dire, mais c'est ça pareil.
C'est triste, en effet. Puis là, j'imagine, bon, t'as déjà comme... une position critique par rapport à la société. Attends, avant de rentrer dans ton livre, faut quand même, parce que là, le monde sont en train de dire « Attends, il a travaillé pour François Legault? What? » Il faut quand même que je t'en parle un petit peu.
Oui, oui, oui.
C'est, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à travailler si jeune? Parce que ça veut dire que tu as quand même 22 ans quand tu as commencé à travailler pour lui.
21.
Pour le premier ministre. Et comment tu as vécu cette expérience-là? Quand même, ça doit être riche là, comme expérience
pour un jeune garçon.
Oui, c'est clair.
Ben moi, écoute, ça fait longtemps que je suis impliqué. J'étais impliqué avec la Coalition Avenir Québec. Là. J'ai commencé autour de 2018-2019 avec eux.
À cause de son côté nationaliste?
Ouais, moi, j'ai toujours été un nationaliste conservateur. Le côté de gauche du Parti québécois, j'ai milité là brièvement. Ça m'a toujours un peu repoussé. Parce que, tu sais, déjà, pour un gars de Québec un peu plus centre-droit, c'est pas exactement la vision du monde que j'avais.
Puis Jean-Martin Hossan, est-ce qu'il t'a intéressé pendant un temps? Pas tant?
Pas particulièrement.
OK.
mais pour vrai, c'est un truc de trentenaire, ça. Genre, le monde qui capote sur l'option nationale, là, c'est des gens qui étaient au cégep en 2012.
Mais ça a duré, exactement, ça a duré juste
exact,
cette période-là.
Exact. Tu vois, moi, en 2012, j'étais au primaire.
C'est ça, je comprends.
C'est sûr que j'ai pas la même relation avec Option nationale que certains peuvent avoir.
Je comprends.
Option nationale est quand même un parti assez progressiste. Là. Moi, j'ai quand même plus dans le côté conservateur. Fait que cet aspect-là de la Coalition Avenir Québec m'avait séduit à l'époque. Puis tu sais, aussi, c'est un parti où... C'est niaiseux à dire, là, mais c'est du monde normal qui milite là-dedans. Tu sais, quand t'es un jeune, justement, qui vient de Québec, qui vient pas de Montréal, puis tu vas dans les partis politiques, tu sais, puis on s'entend là, que ce soit PQ, PLQ, QS, c'est autre chose, mais c'est un peu tout le même genre de monde, tu sais, qui reste sur la ligne orange, qui sont à la Brébeuf. C'est un peu le même genre de personne que tu imagines, qui n'était pas ma sociologie et mon genre de monde. Fait que ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé particulièrement. Puis après, là, tu arrives à la CAQ, puis shout-out, comme on dit en anglais, aux jeunes de la CAQ, parce que c'est du monde ordinaire, c'est du monde fin, qui se prennent pas pour d'autres, qui viennent souvent pas de Montréal, qui ont ce côté-là. Puis moi, c'est toujours quelque chose que j'ai respecté et que j'ai admiré de ce parti-là, parce que sociologiquement, c'est un peu le parti des gens qu'on entend rarement. T'sais. Je veux dire, tu regardes, puis ça, je me souviens, même quand j'étais au cabinet, on le voyait dans nos sondages. C'est qui vote pour la Coalition du Québec? Des gens qui sont moins diplômés, qui font moins d'argent que la moyenne, qui sont un peu plus âgés aussi, qui restent ni à Québec ni à Montréal. Puis ça, c'est les dernières personnes que tu vas voir dans les médias. En fait, tu vas jamais les voir. Puis ce côté-là, faut pas charrier, là, mais le côté de justement porter la parole des gens qu'on n'entend pas toujours. Ça, c'est quelque chose qui m'a rejoint dans ce parti-là. Puis je pense que ça explique aussi pourquoi, notamment avec une certaine opinion progressiste, tu as toujours été très critiqué, parce que c'est quand même un parti qui a ce courage-là, justement, de parfois amener des vérités que certains ne veulent pas entendre, particulièrement sur la question identitaire. Bref. Tu demandes pourquoi, c'est un peu ça.
Non, mais merci, ça me permet de mieux comprendre, même si je suis quand même pas d'accord sur bien des affaires que tu dis, mais c'est pas ça qui est important.
On n'est pas c'est pas pour ça qu'on est là.
C'est pas pour ça qu'on est là, mais ça me permet de mieux comprendre. Merci de l'avoir expliqué. Maintenant, tu as choisi d'écrire un livre qui s'appelle Anti-civilisation. Ouais. Premièrement, qu'est-ce qui t'a mené à cette réflexion-là de ton livre? Ça fait combien de temps qu'il mûrit dans ton esprit?
Ben ça, c'est sûr que ça fait au moins 2-3 ans que je pense à ces questions-là, puis c'est... Bon, moi, j'écris pas des livres à la première personne, là. J'aime pas ça trop parler, c'est pas un exercice de vidage de cœur, ces livres-là, c'est de réfléchir sur la société.
Ouais.
Mais reste que je constate quand même quelque chose que moi, je ressens au niveau personnel, puis que je constate autour de moi, c'est que, disons, dans la génération Z, ceux qui ont entre... ceux qui sont nés entre 1995 et 2012, grosso modo, 2010, qui sont dans la vingtaine pour la plupart aujourd'hui, un peu ce sentiment-là de... J'aimerais dire qu'on a été déshérité d'une certaine forme de tradition. Parce qu'on s'en rend compte maintenant, quand ça passe, que dans les années 60-70, on a vécu une espèce de révolution. Puis c'est pas juste la révolution tranquille, là, c'est partout en Occident.
Ouais.
Cette idée-là, justement, qu'il y avait une espèce de bagage civilisationnel dont on était héritier, qui soudainement convenait plus, qu'il fallait avoir une espèce de grand recommencement collectif. Et on n'a pas mesuré les risques qu'on prenait quand on a décidé justement de couper le fil de la transmission, pour ainsi dire. Parce que c'est un peu facile, quand tu as hérité de tout, après de dire « Ah, moi, je suis libre de choisir, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie », c'est probablement vrai par ailleurs. Mais 50 ans plus tard, quand on n'a justement pas transmis, puis que là, on arrive à mon âge, puis que tu sais, tous les poncifs qu'on entend dans le système d'éducation, dans la culture populaire, c'est « Ah, t'es libre de faire tout ce que tu veux, garde tes portes ouvertes, toutes ces idées-là, deviens qui tu es, tous des trucs qui sont d'une vacuité, mais abyssale. »
Ouais.
Puis au final, le constat aussi, c'est juste de dire que tu peux pas savoir qui t'es si on choisit à dessein de ne pas t'enseigner dans quelle nation tu t'inscris, de ne pas t'enseigner dans quel patrimoine de civilisation tu t'inscris. Fait qu'à ce moment-là, c'est normal, je pense, qu'il y ait un certain manque de repères. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, c'est pour ça que moi, je suis zéro surpris quand je vois que partout en Occident, on constate que les jeunes virent un peu à droite, virent un peu vers le conservatisme.
Ouais.
Ça, c'est pas juste vrai au Canada, tu sais, avec le Parti conservateur de Pierre Poilievre, qui évidemment est un gros exemple.
Mais... Tu parles aussi des États-Unis dans ton...
Oui, aux États-Unis, tu sais, de dire que... À peu près 50% des jeunes ont voté pour Donald Trump. Ça, c'est pas tout le monde qui aurait vu voir ça.
Non,
puis
ouais.
Pas juste les jeunes hommes. Là. C'est 40% et plus des jeunes femmes. Là. Fait qu'il y a vraiment un phénomène derrière ça.
Ouais.
Tu regardes en France, le parti, le Rassemblement national de Marine Le Pen
ouais.
est beaucoup plus populaire avec les jeunes qu'avec les vieux. Fait que mm-hmm. il y a un phénomène de fond là-dessus. Puis je pense que, après, quoi qu'on pense de ces partis-là, quoi qu'on pense de ces politiciens-là, il y a un malaise qui est en arrière de ça. Puis c'est un peu ça que j'ai voulu disséquer, de dire mm-hmm. ça part d'où cette idée de déconstruction-là? C'est quoi les conséquences que ça va avoir? Puis pourquoi aujourd'hui on est dans un moment, je crois et je l'espère, de retour de balancier
ouais.
où on revient davantage vers une forme d'enracinement, vers justement les institutions qui donnent du sens à nos vies, que ce soit la famille, que ce soit la nation, les associations, la communauté plus large.
T'sais. On va y revenir à la famille parce que c'est comme ça que tu conclus ton livre, puis je trouve ça super intéressant que tu conclues là-dessus. Mais tu parles de liberté, puis au début, quand je disais ta définition de ce que la liberté, j'étais pas certaine de comprendre, parce que je me disais, c'est pas la liberté que. Que moi, tu sais, pour moi, la liberté, c'est le fondement même de ce que l'humain est. On est né pour être libre, on est né pour faire nos choix pour nous-mêmes, pour être souverain, pour être un peu dans la notion anarchique, mais au sens purement philosophique, là. Pas au sens anarchique, on détruit tout, c'est le passage. Mais et dans le fond, tu parles de la liberté, j'ai fini par comprendre, mais est-ce que tu peux expliquer, parce que tu la décris un peu comme étant une forme de problématique, cette liberté-là, parce que tout le monde maintenant la revendique au détriment finalement de l'utilisation.
Exact. Peux-tu expliquer? Moi, je suis assez critique de la notion de liberté comme on la conçoit aujourd'hui, parce qu'on est sorti un peu de la liberté classique au sens traditionnel du terme. C'est parce que la liberté, comme on l'entend dans la tradition classique, c'est d'abord la liberté par rapport à la pire part de soi-même. T'sais. Comme dit Solzhenitsyn, je m'excuse de faire le nerd qui cite trop d'affaires.
C'est bien correct.
Mais comme il dit, la ligne de démarcation entre le bien et le mal passe pas entre les camps politiques, entre les groupes de personnes ou entre les États, elle passe dans le cœur de chaque homme. Fait que c'est dire ce constat de base qui... est fondamental, puis je pense qu'on reconnaît tous qu'on a, une part de mal en nous, on a des tentations qui parfois sont mauvaises, puis d'être vraiment libre, c'est d'être capable de discerner le bien, puis le grain livré, et justement d'agir pour le bien. Fait que pour moi, je réfute cette idée-là selon laquelle la liberté de faire le bien serait l'équivalent de la liberté de faire le mal. Après, c'est sûr que pour certains, ça serait plus pratique, parce qu'il y en a qui veulent bannir la notion de bien et de mal du monde aujourd'hui. Moi, je pense pas qu'on peut faire ça, puis c'est sûr que la perspective philo joue beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que c'est quand même de penser qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que c'est, si on peut plus penser le bien puis le mal, moi j'ai plus de job, là. Ça sert à rien de...
Ben, il n'y a plus d'humanité non plus.
Ben, exactement, exactement. Et donc, la vision de la liberté négative, parce que c'est comme ça que les penseurs de cette tradition l'appellent, c'est l'idée que la liberté, c'est d'abord l'individu contre les institutions plus larges que lui, qui souvent donne sens à son existence. T'sais, l'individu il est libre quand il s'affirme contre sa famille. L'individu est libre quand il s'affirme contre la communauté dans laquelle il s'inscrit, contre la nation. Et d'ailleurs, cette conception-là, qui est quand même assez problématique dans la mesure où la question qui est toujours un peu en arrière de ça, c'est de dire, OK, mais est-ce que je peux librement choisir la tradition? Est-ce que je peux librement choisir ma famille? Est-ce que je peux librement choisir la nation? Puis bon, les penseurs qui défendent cette forme de liberté-là tendent à être un peu plus... progressiste, en tout cas.
Sûrement.
Et donc, souvent, la réponse est un peu non. Là, ils vont pas le dire directement, mais pour eux, par exemple, d'être croyant, c'est toujours une forme d'aliénation. On pourrait pas être libre en croyant en Dieu, par exemple. C'est un peu étrange. Il y a beaucoup de gens très libres qui l'ont fait par le passé.
Mais c'est comme de l'hyper... comment je pourrais dire, rationalisme.
Ouais, exact, si exact, bien sûr.
T'es tellement dans la raison que t'es complètement déconnecté du cœur, qui est quand même une dimension.
Ben oui, le pire, c'est que moi, je suis convaincu qu'il y a personne qui se sent vraiment comme ça. Tu sais, dans le sens qu'on le sait tous d'une certaine manière que cette vision-là de la liberté qui vient aussi avec une vision de l'individu, hein, comme étant très abstrait, comme un atome qui est sorti justement du reste puis qui peut seulement s'affirmer quand il s'en sort encore davantage. Mais au final, en tout cas, je nous le souhaite, qu'on ait tous justement, qu'on ait des amis, qu'on ait une famille, qu'on ait des gens à travers qui on comprend que la liberté, c'est aussi la responsabilité, que la responsabilité va des deux sens, que aussi... quand on parle d'identité, on en parle beaucoup ces jours-ci, que d'avoir une identité, c'est d'avoir une responsabilité envers quelque chose aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas juste une pin qu'on se met sur la poitrine pour flasher, pour avoir l'air cool. Ouais. C'est aussi de dire, ben justement, j'appartiens à une famille, j'appartiens à une nation, j'appartiens à une institution, ben elle a des attentes envers moi, ouais. J'ai des devoirs envers elle, comme elle a des responsabilités envers moi, mais on n'est plus dans une logique individualiste.
C'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme si, en même temps, c'est pas ça qu'on nous vend. Je suis pas consciente qu'on est dans ce paradigme-là, mais de la façon que tu l'amènes, parce que on nous a tellement parlé du collectif, justement, pendant les années de COVID, si tu pensais à toi, si tu pensais à préserver ta santé mentale en respectant pas une certaine mesure, ou si tu choisissais de refuser l'injection pour des raisons tout à fait légitimes, soudainement, c'est comme pense au collectif, pense aux autres, sois solidaire. Mais en même temps, on est dans la société la plus égoïste que j'ai vue de ma vie. Ouais. Je sais pas, ça fait assez longtemps que je vis. Je me rappelle pas avoir vécu un moment où on est autant déshumanisé, autant déconnecté des autres, où on laisse les vieux mourir sans leur donner de soins. On s'est perdu là, en quelque part là-dedans. Moi, je trouve que les 5 dernières années ont eu un impact vraiment important sur le tissu social puis sur notre façon de vivre le lien. Puis tu parles de ça, justement. On est des êtres de lien. On est des êtres sociaux, les humains. Mais là, c'est comme, il y a beaucoup, pour en rebondir là-dessus, mais tu sais, cette mouvance de la femme qui n'a plus besoin d'un homme, qui n'a plus besoin d'une famille, c'est comme si là, pour être vraiment pleinement libre, il faut que tu sois complètement, mais émancipé à un point tel, autonome financièrement, puis si tu t'en vas vers autre chose, comme tu sais, on pourrait parler des tradwives, j'ai reçu 2 filles récemment qui avaient été à Tout le monde en parle, on va les pointer du doigt comme étant régressistes, qu'elles font, tu sais, c'est parti pour recul des droits des femmes, puis, tu sais, pour moi, c'est comme si on comprend pas du tout les leviers. Tu me sembles que tout le monde aurait le droit de choisir de rester à la maison puis d'élever ses enfants selon ses valeurs. Mais là, c'est rendu qu'elles font reculer les droits des femmes, tu sais. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Ben, qu'est-ce que tu penses de ça?
C'est un exemple typique de l'exemple que je donnais avant. Est-ce que je peux choisir la tradition? Puis, ben manifestement, c'est toujours un peu la suspicion d'aliénation qui plane par-dessus ces femmes-là. Ben, tu sais, sans se positionner, j'ai pas une opinion forte sur cette question-là, manifestement, c'est une liberté qui est à sens unique. Puis dans tellement d'enjeux aujourd'hui, on voit, puis c'est pour ça que je suis très, très, très sceptique, disons, de la conception contemporaine de la liberté, parce que 9 fois sur 10, c'est une liberté qui est orientée. Parce qu'il y a juste un choix sur 2 qui est vu comme étant libre. Puis quand ceux qui vont se servir de cet argument-là, c'est à cette fin-là. T'sais, c'est pour te mettre un peu dans un entonnoir. Puis d'une certaine manière, puis là, encore une fois, c'est un peu la déformation de personnes qui écrivent des livres de philo. Mais je pense que c'est quand même utile. T'sais, moi, j'ai toujours préféré quelqu'un qui a une vision du bien qui est différente de la mienne, qui va l'assumer, puis qui va me dire « voici pourquoi t'as tort. Voici pourquoi c'est ça qui est objectivement bien pour l'ensemble et donc pourquoi tu devrais le faire. » Mais plutôt de dire « ça respecte pas un droit X », pour vrai, moi, ça me satisfait pas philosophiquement.
Je comprends.
Je pense que c'est facile aussi de glisser puis d'interpréter ces droits-là tout croche. T'sais, je sais pas si tu as vu passer dernièrement le jugement sur les pistes cyclables à Toronto. Ça mourrait de rire.
J'ai manqué ce bout-là.
Doug Ford a été réélu cette année. Parmi ses promesses électorales, couper certaines pistes cyclables dans le centre-ville de Toronto. Et là, quand il veut mettre sa promesse en application, des associations de cyclistes poursuivent le gouvernement de l'Ontario. Et la Cour ontarienne, je peux pas dire exactement quel tribunal, tranche en faveur de garder les pistes cyclables et donc d'empêcher le gouvernement d'exécuter le programme pour lequel on l'a élu, au nom du droit à la vie des cyclistes. Donc, on s'entend, on vit dans une société où l'aide médicale à mourir est tolérée malgré le droit à la vie, mais enlever des pistes cyclables, ça par exemple, ça viole le droit à la vie. Tu sais, ça dit comment, malheureusement, nos institutions aujourd'hui qui se basent sur ces droits et libertés-là peuvent être capturées par des gens. Puis tu sais, au final, quand t'as 9 juges qui sont redevables à absolument personne, qui prennent des décisions, puis qu'il n'y a aucune manière d'en faire appel après, sinon la clause dérogatoire qu'on veut pourtant enlever au Parlement désormais, c'est tellement facile d'être capturé puis d'en faire n'importe quoi après, tu sais. Fait que moi, je pense, d'ailleurs, on parle souvent de tyrannie de la majorité, de à quel point les gouvernements peuvent opprimer les libertés des citoyens, puis il y a cette possibilité-là. Mais moi, je préfère 1000 fois un gouvernement qui fait adopter une loi qu'on peut faire changer dans 4 ans en votant qu'un jugement qu'on peut seulement renverser, quoi, 70 ans plus tard. Puis c'est quand est-ce que le précédent juridique va être inversé? C'est super rare, ça. Fait que c'est facile de rentrer dans une espèce de spirale où des mauvaises décisions vont juste devenir pires à cause de précédents qui ont été mauvais. Ça, c'est un arbitraire total, tu sais, c'est-à-dire quand on, même quand on a nommé ce juge-là, est-ce qu'on savait vraiment qu'est-ce qu'il pensait sur une question X ou Y ou Z qui se posait même pas au moment où on l'a nommé, qui a juste émergé 30 ans après, puis où finalement, tu sais, il y a tellement d'arbitraires là-dedans, mais c'est comme si, eux, on leur donnait le bon Dieu sans confession, mais par contre, nos leaders élus, eux, là, ils sont vraiment, tu sais, super dangereux puis susceptibles à toutes les tyrannies, alors que c'est les plus faciles à remplacer. C'est les seuls sur lesquels on a encore du pouvoir.
Je comprends. Tu parles de liberté négative, mais maintenant, est-ce qu'on a une liberté positive, dirais-tu, par opposition à ça? Il y a quand même une forme de liberté vers quoi on doit tendre comme société?
Oui, ben, la liberté positive, c'est la liberté de réaliser une vision du bien. C'est la liberté, justement, de s'orienter vers des buts qui sont plus grands, des buts qui rejoignent une certaine vision de l'épanouissement humain. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, mettons, évidemment, la dignité de chaque personne, la priorité aussi aux plus démunis, c'est tous des biens qui sont plus important qu'une forme de liberté. C'est-à-dire que moi, je pense que, justement, la dignité humaine doit primer sur la liberté de faire du mal à autrui, que la préférence pour les plus vulnérables doit être avant la liberté de faire du mal aux plus vulnérables, par exemple, ou de les laisser dans des conditions qui sont indignes. Fait qu'à ce moment-là, oui, effectivement, qu'une liberté qui serait positive, ce serait le moyen d'accéder à des fins qui sont bonnes. T'sais. Puis c'est juste que la liberté ne peut pas devenir une fin en soi, en fait. On pourrait résumer comme ça.
Je comprends. Attends, je vais être sûre qu'on s'en va à bonne place avec mon affaire. C'est pas, je voulais te citer. Tu parles du mouvement No Kids, que je connaissais pas nommé comme ça, qui est le refus d'avoir des enfants pour l'idéologie, là, parce que finalement, c'est une idéologie. Tu cites Mona Chollet, qui parle d'injonction à l'oubli de soi, de ne devoir son temps et son énergie à personne plutôt que de devenir une simple auxiliaire au service de d'autres vies que la sienne. Finalement, elle est fière de ne pas devoir donner son temps à des enfants. Et on voit de plus en plus ce mouvement-là. Souvent, des articles qui sont publiés dans la presse, le Journal de Montréal, où on voit des femmes qui se sentent complètement émancipées. Puis, on en a parlé, on a survolé un peu ça, le refus, finalement, de l'engagement. Dirais-tu que, par rapport à ta génération, est-ce que tu observes que c'est encore plus fort, cette incapacité de vivre les relations, mais vraiment engagées, que ce soit par rapport à son employeur, à ses amis, à sa relation de couple?
C'est ça. Ben, je pense que l'angle de ta question est le bon parce que c'est vraiment quelque chose qui touche nos relations envers les autres en général. Tu sais, moi, je ne veux pas forcer les gens à avoir des enfants. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui ne veulent pas. C'est bien correct. Néanmoins, je pense qu'il y a une tendance culturelle derrière ça. Puis derrière une certaine vision de l'autonomie aussi qui est complètement exacerbée puis sortie de son contexte. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, une espèce de phobie de l'engagement aujourd'hui. Cette idée que si je ne m'appartiens plus qu'à moi, si je dois quelque chose à quelqu'un d'autre, si je dépends de quelqu'un d'autre pour un bien quelconque, c'est comme si je m'appartenais plus. C'est l'inverse quand on entend parler d'empowerment à tout vent. C'est un peu l'inverse de ça. C'est comme le depowerment qui serait la dépendance envers autrui, l'appartenance justement à des institutions, à des structures qui sont plus larges que nous. Mais honnêtement, j'en suis venu à la conclusion que cette idéologie-là, c'est un truc qui est juste possible en 18 puis 35 ans, quoi. Tu sais, dans le sens qu'on est tous dépendants de quelqu'un d'autre. Déjà, quand on est bébé, tu sais, l'être humain, c'est vraiment la créature qui a besoin du plus de soins avant de devenir autonome. Puis c'est normal que quand on devient plus vieux aussi, on s'attende à ce que notre famille s'occupe de nous, tu sais. On peut en parler, mais tu sais, toute la situation en ce moment avec les CHSLD, puis c'est bien avant la pandémie, là, c'est un trait culturel là, de dire qu'il y a un certain temps où on n'a plus de devoir envers ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui sont occupés
on
de nous.
On les place, on n'entend plus parler.
Exactement. Puis ça, certainement que, si on veut parler de dignité humaine, ben c'est pas le plus bel accomplissement du Québec contemporain.
Non, puis c'est pas toutes les cultures qui sont comme ça non plus.
Non, c'est ça. Puis là-dessus, je pense qu'on doit quand même beaucoup d'admiration aux Asiatiques, par exemple, qui ont une relation qui est beaucoup plus empreinte de respect aussi avec leurs parents et tout. Donc, ça, c'est clair. Là. Si on parle de, justement de cette vision-là de l'autonomie, moi, je pense que ça nous amène dans le vide aujourd'hui. Puis le pire, c'est que ça rend même pas heureux. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est normal aussi quand on entend toutes sortes d'histoires d'horreur, puis c'est vrai, bon, c'est ça qui fait vendre, c'est ça qu'on entend, là, tu sais. C'est sûr, tu te dis, par exemple, le mariage, tu dis, mon Dieu, d'un coup, que je me marie avec quelqu'un qui me trompe, qui est un écœurant, ou qui fait ci, qui fait ça, là, je vais avoir des protections, d'un coup, ça marche pas. Mais en même temps, si tu rentres un peu à contre-cœur dans toutes les relations, dans toutes les institutions, où tu fais ta vie. T'sais, c'est comme, tu rentres pas chez un employeur, puis là, ça, c'est très Génération Z, ouais, en lui expliquant toutes les manières que tu veux pas travailler. T'sais.
Exactement.
Puis après, j'ai compris d'être complètement désespéré, puis de dire, c'est quoi cette bande de fous? Parce que t'engages quelqu'un, c'est parce que tu veux travailler avec, tu veux qu'il travaille avec toi. Puis si toutes les questions, c'est comment je suis capable de me sauver du travail à telle heure, de pas être là, puis là, tu te dis, OK, mais cette personne-là, elle est zéro engagée, puis elle veut juste le chèque de paye, elle va rien faire pour moi. T'sais.
C'est ça.
Puis là-dessus, le travail aussi, c'est une institution qui donne du sens à nos vies.
Ben oui.
Puis c'est bon d'avoir une relation saine avec ça. Ouais. Puis justement, quand notre vision est tellement pessimiste envers tous les engagements, tous les attachements, je pense que ça a des conséquences culturelles qui sont très graves. Puis si on regarde justement les questions de problèmes de santé mentale aujourd'hui, dépression, etc., qui sont en montée partout, particulièrement chez les jeunes par ailleurs, moi, je suis convaincu que cette vision-là en fait partie parce que, mais tu sais, l'isolement social, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave qui souvent va causer toutes sortes de comorbidités. T'sais. C'est comme le début du reste qui va t'amener sur une pente descendante. Puis on pense que l'autonomie, c'est tellement important, puis tout, puis jusqu'à certains égards, ça l'est. Mais quand ça bascule dans la solitude, puis quand ça bascule vers la crise de sens, quand ça bascule sur le
la
manque...
La dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo...
Exact. Ou... Parce que est-ce qu'on est vraiment... on est vraiment moins dépendant quand on compense par ça, tu sais.
Non, c'est ça. Puis en plus, c'est que c'est pas nourrissant, tu sais. Ben non. T'en as sûrement entendu parler à Harvard. Ils ont fait une étude sur le bonheur qui a duré 75 ans sur trois générations. C'est vraiment intéressant, tu sais. Ils posaient la question, selon vous, c'est quoi qui rend un humain heureux? Puis la majorité des gens vont rester sur... être prospère, être célèbre, ce genre de choses-là qu'on sait tous finalement que c'est pas vraiment ça. Mais finalement, ils ont vraiment vu la corrélation entre les humains qui ont des belles relations saines et le bonheur. Ces gens-là, non seulement sont plus heureux, mais ils vivent plus longtemps.
Mm-hmm.
Donc, on sait que l'humain est un être de relation.
Ben oui.
C'est ça, c'est super important, ce lien-là. Puis donc, tout ce que tu es en train d'exposer comme problématique est on ne peut plus importante quand on prend en considération que si on est en quête de bonheur, bien, raison de plus d'avoir une belle relation avec vos parents, même si vous tapez ses nerfs des fois. Mais... Parce que oui, tu sais, ça demande de l'investissement. Il n'y a pas une relation... On est un peu dans une espèce de culture d'usage unique.
Ouais.
Du moment que ça commence à aller mal, on le jette aux poubelles, tu sais. C'est comme ça avec les amitiés. Puis depuis que je suis toute petite que je me demande, donc très jeune, je me dis, pourquoi on ne fait pas ça en couple? Tu sais, dans un couple, quand ça va pas bien, tu as une chicane, tu l'adresses, puis tu essaies de corriger qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais en amitié, ou même dans le travail, s'il y a quelque chose qui accroche le moindrement, c'est comme...
Mais même dans le couple aujourd'hui, on pourrait dire qu'avec les applis de rencontre et tout, c'est ça. T'sais. Puis d'une certaine manière, c'est une dynamique de marché qui est super malsaine.
Vraiment.
Moi, je suis pas un communiste, là, on s'entend, mais je crois que, la liberté économique, la conception du marché a... son domaine qui est celui du travail, mais à partir du moment où ça commence à infiltrer le reste des relations, le reste de notre vie, ça devient extrêmement problématique. Toutes les apps de dating, c'est ça, en fait. Là, je veux dire, c'est de marchandiser une partie de l'existence qui ne devrait jamais l'être.
Oui, puis en plus, je trouve que ça dénature aussi toute la conception du destin ou, tu sais, comme la synchronicité ou la magie, finalement, qui opère, qui n'est plus tellement magique. Ah ouais, mais après, je connais plein de couples qui sont connus comme ça puis qui sont ensemble depuis longtemps.
Aux États-Unis, j'ai vu des chiffres comme quoi c'était la source numéro un maintenant.
Aïe, aïe, en tout cas, je suis quand même contente qu'on ne soit pas connus comme ça, mon amour. Puis en plus, on s'est mariés, fait qu'on fait rien comme tout le monde. On vient juste...
Bravo à vous!
merci. Il y a bien du monde qui m'écrivait « Attends, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? » J'ai même ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on est parents de deux enfants, tu sais, plutôt c'est un choix d'amener quelque chose de sacré dans cette union-là. Mais il y a des gens qui... En tout cas, on a beaucoup désacralisé tout le rapport à Dieu. Après, tu parles de quelque chose que j'ai trouvé super intéressant dans ton livre, c'est les élites qui sont de plus en plus de gauche, contrairement à avant, qui étaient plus de droite. Puis là, tu parles justement de cette forte tendance dans les universités où on a vraiment des très gros biais idéologiques. Peux-tu nous expliquer ce phénomène qui se passe dans les universités?
Bien, je pense que plus largement, si on veut comprendre beaucoup de ce qui se passe en ce moment, puis honnêtement, c'est une période qui est très intéressante pour étudier la politique parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent.
Ouais.
Et on n'a pas l'impression qu'on est dans un long fleuve tranquille où on reste un peu sur les mêmes débats qu'on a toujours eu avec les mêmes partis qu'on a toujours eu. Bon, quoique au Québec, si c'est encore le PLQ puis le PQ, oui, ça va être le cas. Mais en général, dans le monde, faisons abstraction de cette parenthèse, c'est pas forcément ça. Puis je pense que quelque chose de vraiment important qu'on n'a pas encore pris les conséquences, c'est ce qu'on appelait la révolution managériale. Puis ça, James Burnham, on salue, en 1941, l'avait vu venir, puis on savait pas encore à quel point ça allait être important. Parce que je pense, dans l'après-guerre, beaucoup de ce qu'on vit en ce moment, c'est les conséquences de ça. Hein, puis ces conséquences-là se vivent à long terme. On a quelque chose qui s'est développé, d'abord l'État-providence, qui a permis quand même quelque chose de formidable, c'est-à-dire l'émergence d'une classe moyenne qui fait à peu près partout les deux tiers de la population, qui a un niveau de vie comme on n'a jamais eu.
Ouais.
Et justement, d'avoir, au lieu d'une espèce de monde bipolarisé justement entre les prolétaires et les bourgeois, un peu le vieux schéma marxiste, on a une espèce de classe qui est centrale, qui est stable, puis qui maintenant recherche aussi la stabilité. Hein. Donc, c'est vraiment différent. On est vraiment plus dans l'ancien mode d'affrontement autour de la révolution industrielle et tout. Et à partir de ce moment-là aussi, on a un autre phénomène qui est la démocratisation des études supérieures, qui est justement mène à la révolution managériale dans la mesure où, à partir du moment où on a un gros État, à partir du moment où les universités prennent beaucoup de place, qui sont un peu l'endroit où tu vas aller pour avoir ton badge de légitimité qui va te permettre ensuite de te placer dans les médias, comme prof à l'université, dans l'administration publique, dans tout ce qui a un pouvoir sur la vie des autres, on peut dire, c'est ce pouvoir-là qui devient central. T'sais, on n'est plus à l'époque où, quoi qu'on pense des grands entrepreneurs, etc., je pense plus que c'est eux qui ont le pouvoir dominant aujourd'hui, dans la mesure où le bureaucrate qui va venir leur dire quoi faire ou le gouvernement qui va faire une régulation qui va les forcer à faire quelque chose a une prise sur eux qu'on n'avait pas avant. T'sais, on n'est plus à l'époque des moyens de production, des grands capitalistes, etc. Et donc, quand on a ce schéma-là, on a aussi une société qui est divisée davantage entre, pas le 99% et le 1%, comme nous diraient nos amis gauchistes, mais davantage le tiers de personnes qui sont allées à l'université et le deux tiers qui ne sont pas allées. Puis aujourd'hui, quand tu regardes, par exemple, ceux qui vont voter plus progressistes, plus conservateurs, c'est ça la ligne qui coupe entre les deux. Uh-huh. Si tu veux trouver le plus gros écart entre le type de vote, tu regardes, es-tu à l'université, es-tu pas à l'université. Puis c'est là que tu vas voir que les opinions sont très, très, très polarisées. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, parce qu'on voit que dans la mutation des partis politiques, il y a eu ça aussi. T'sais. Si on regarde, par exemple, la réaction chez les penseurs de gauche dans les années 60-70, quand on a vu l'émergence de cette classe moyenne-là, quelqu'un comme Herbert Marcuse, qui enseignait en Californie, qui était très élu dans mai 68 en France aussi, son livre « L'homme unidimensionnel », la question qui se pose, c'est de dire maintenant que le prolétariat, au sens révolutionnaire, marxiste, n'existe plus, qu'est-ce qu'on fait? Et on note qu'il ne le célèbre pas. Il ne dit pas « Ah, c'est formidable, on se battait pour la dignité des gens ordinaires. Maintenant, deux tiers des gens appartiennent à une forme de classe moyenne. Mission accomplie. » C'est pas ça du tout. Au contraire, il dit « Comment est-ce qu'on peut sauver la révolution? Comment est-ce qu'on peut sauver la pensée critique? Comment est-ce qu'on peut continuer justement dans un peu l'horizon progressiste révolutionnaire? » Et donc, lui tourne son regard vers ceux qu'il appelle les marginalisés. Là, dans son cas, c'était beaucoup les Noirs américains, les minorités sexuelles, ceux qui sont devenus un peu la coalition de la gauche contemporaine, et voit ces gens-là comme étant la contradiction de la société établie, puis acte un peu le basculement vers les questions identitaires avant les questions économiques, qui est aujourd'hui le pain et le beurre de la gauche. Et il y a aussi un basculement électoral qui se fait, parce qu'à ce moment-là, puis ça s'est juste empiré après, on voit déjà que le socle électoral de la gauche devient davantage cette classe universitaire-là que le prolétariat traditionnel. Puis en fait, depuis ce temps-là, puis là maintenant, on le voit vraiment parce que c'est devenu flagrant, les classes populaires, les ouvriers, etc., qui ont toujours été plus culturellement conservateurs, bien que pas très à droite sur les questions économiques dans la mesure où il y a un certain niveau de protection sociale qui leur permet d'avoir un mode de vie auquel ils tiennent, puis on les comprend. Ça fait qu'on a vraiment un échiquier politique qui est un peu basculé, là. Parce qu'avant, justement, quand on se disait « Ah, ben c'est les patrons contre les ouvriers », ben là, les patrons, c'est la droite qui veulent empêcher la révolution, puis les ouvriers, c'est les gens de gauche qui veulent changer le système. Mais là, on est un peu à l'inverse, parce qu'on a justement une élite qui est un peu insatisfaite, condescendante avec le mode de vie de la majorité, qui souvent, toutes les lubies idéologiques des dernières années, pour la plupart, sont parties de là. Puis, tout le moment woke de 2020, c'est directement de là que ça sort. Puis la plupart des gens qui, justement, ne sont pas dans ce petit milieu-là et ces excroissances que sont, par exemple, une bonne partie des médias, que sont les universités, et des gens qui, ensuite, finissent souvent par avoir des contacts avec le gouvernement, parce que c'est quand même ça, la classe qui interagit avec l'appareil étatique. Ben, les gens qui ne sont pas là-dedans se demandaient un peu c'était quoi. Puis, quand on est arrivé avec des théories, par exemple, comme celle du racisme systémique, puis qui était super offensant pour plein de monde, qui disait, voyons donc, c'est pas vrai. Là. Puis, tu sais, même chose, le privilège blanc, puis toute cette série-là, tu sais, je veux dire, quand tu travailles au Walmart à 15$ de l'heure, pour vrai, je pense que ton privilège, tu le ressens pas tant que ça. De se faire donner des leçons à ce niveau-là, je pense que ça a agacé vraiment beaucoup de monde, puis ça a montré qu'il y a vraiment un clivage de valeurs entre, justement, une classe qui pense justement qu'elle va réformer la société pour le mieux, etc., puis des gens qui moi, en tout cas, la manière que je l'interprète, c'est une demande de stabilité avant tout. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, justement, qu'on est en train un peu de déconstruire ce qu'il y a autour d'eux, que ce soit ce qui permet leur mode de vie sur le plan économique ou ben, juste l'univers de sens culturel dans lequel on baigne, puis qui fait que globalement, on a certains repères auxquels on tient, puis toute l'idée, justement, des boulonnages de statut, la déconstruction de la nation, tout ça, ben, ça fait du mal aux gens à ce niveau-là aussi, parce que les gens ont besoin de stabilité. Mais pour beaucoup de cette élite universitaire-là, c'est pas important, parce que c'est le projet révolutionnaire, c'est la justice sociale, puis la demande de stabilité qui est quand même fondamentale pour les gens ordinaires, c'est comme si on l'avait oublié un peu.
Mais non seulement on l'a oublié, mais c'est qu'on nie que ça fait du mal, parce que tu viens de dire, ça peut heurter le manque de stabilité. Moi, ça m'arrive souvent de faire des publications. J'ai reçu justement les filles de Transmania qui ont écrit le livre. Je ne sais pas si tu as lu Transmania. Ouais, ouais. Qui reçoivent des menaces de mort régulièrement, qui ont des protections policières. T'sais, puis pour dire des choses aussi simples que les femmes ont un vagin, puis désolé, mais si c'est pas ça, ben vous n'êtes pas une femme. mais tu sais, en fait, c'est qu'elles ont donné après la parole à des gens qui ont, mettons, nés de mères porteuses ou... Puis là, tu vois la souffrance ou des transitionneurs ou... bon, puis là, je parle de ces deux filles-là, mais je veux dire, il y a plein de gens qui commencent à donner vraiment à la parole dans la sphère publique à des personnes qui ont souffert de cette idéologie-là, puis qui disent, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, protéger les enfants, puis pas commencer à avoir des drag queens qui leur mettent déjà dans la tête qu'un gars peut être un peu une fille, puis peut se maquiller, puis peut porter des robes, puis... Puis ceux qui voient pas le problème, tu sais, moi, j'ai vraiment eu du monde qui m'ont écrit « Ah, mon Dieu, mon enfant s'est fait lire le conte, mettons, de je sais plus quoi, là, mettons, La Belle et le clochard par une drag queen. Mon Dieu, quelle horreur! Il va être en thérapie toute sa vie. Il a été torturé. » Puis je suis comme « Mais c'est vraiment de la mauvaise foi de pas comprendre qu'est-ce qu'on dit ici, tu sais. » Ce qu'on nomme, c'est que c'est la porte d'entrée à une idéologie qui déconstruit finalement les fondements de la société qui sont « Il y a un homme, une femme, puis la famille. » Après, si on s'en va dans cette direction-là, oui, ça crée du tort. Ouais. C'est pour ça que tant qu'on ne voit pas que ça fait du mal, ben, toutes les gens qui sont pour le progrès, les progressistes, vont continuer de s'acharner pour nous dire que nous, on a tort et qu'eux ont raison. T'sais, je ne sais pas s'il y a la possibilité vraiment d'ouvrir une discussion là-dessus.
Mais écoute, moi, bon, la question de drag queen, c'est pas mon plus grand cheval de bataille, je le confesse, mais cela dit, je me pose toujours la question pourquoi il y en a qui y tiennent à ce point-là. T'sais, ça, je trouve ça toujours un peu étrange.
Ouais.
Puis moi, je crois fondamentalement quand même qu'il y a le droit pour les parents d'éduquer les enfants selon leurs valeurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Puis plus largement, je pense que la question des coûts de la déconstruction, on commence juste à la toucher, tu sais. Puis j'ai quelques exemples dans le livre là-dessus, tu sais. Pour moi, par exemple, les politiques sont beaucoup trop laxistes par rapport à la toxicomanie puis à la drogue. Tu sais, après, c'est normal parce qu'il y a vraiment un gap entre les élites puis la plupart du monde là-dessus. C'est sûr que si ta relation avec la drogue, c'est que tu as fumé un joint une fois de temps en temps ou que dans tes parties de finances, tu fais de la coke, puis bon, c'est pas les milieux que je côtoie, mais on n'a pas la même relation avec la drogue que si... ton village a été ravagé par le fentanyl.
Ouais,
mais l'affaire, c'est qu'on ne peut pas faire des politiques pour le 20-30%. Puis d'ailleurs, est-ce que ces gens-là devraient faire de la coke? Probablement pas. Mais on ne peut pas partir de l'expérience super nichée d'un groupe qui s'adonne à être au pouvoir pour régler la vie des 70% d'autres, parce que ça a des énormes conséquences.
Ouais.
La question de la drogue, moi, j'ai plusieurs amis qui restent à Vancouver.
Plein de points
tu ne vas plus à cause de ça.
non, c'est écoute, trash.
Ils m'ont amené là une fois, puis je revirais de bord assez tôt. Là,
c'est un bilan.
Ben oui, exactement. Ouais. Puis, même chose, si on parle de l'idée si généreuse d'abolir la police. Là. Pour vrai, il faut être complètement lunaire pour vouloir faire ça pour vrai. T'sais, dans la mesure où, quand il n'y a vraiment plus de police, mais vraiment plus, là, ben c'est la loi du plus fort.
Ouais.
C'est-à-dire que si moi, je m'achète un gun sur la rue ici, il n'y a pas de police, c'est moi qui vais faire la loi à tout le monde.
C'est sûr.
Puis, mais c'est comme si on avait oublié ça, alors que c'est tellement la base. T'sais.
On a démonisé beaucoup la police dans le mouvement des fonds de police.
Ben oui.
Ça
ne
drôle d'être policier dans ces circonstances-là.
C'est pour ça qu'on parle beaucoup ces temps-ci de désengagement policier aussi, dans le sens où, justement, parce qu'ils sont rendus avec tellement mauvaise réputation, ils n'ont plus le goût d'intervenir à certains endroits en disant « tant pis, de toute façon, tout le monde va me tomber sur la tomate. »
Ça mène à un certain laxisme.
Ben, c'est ça, exactement. Puis on le voit, par exemple, en France, ben eux, le manque de sécurité, c'est ça que ça fait. T'sais. À partir du moment, t'sais, l'absence de police, ça fonctionne quand tout le monde obéit aux règles implicites. Mais à partir du moment où t'en as un qui le transgresse, ben ça marche plus, puis t'as besoin de quelqu'un pour ramener l'ordre, justement, après.
Ouais.
Mais tu sais, il y a vraiment un côté, puis c'est un concept de Rob Anderson, un penseur américain que j'aime beaucoup, il dit c'est une croyance de luxe. Tu sais, dans le sens que c'est le fun de penser ça, ça fait éclairer, tu peux flasher un peu, tu sais, à Rosemont, Outremont, quand sais-je. Mais quand tu l'appliques concrètement, c'est un désastre absolu. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées progressistes aujourd'hui qu'on constate.
Tu parles de drogue, mais j'aimerais ça que tu me donnes un exemple. Je ne suis pas sûre que tout le monde prend la pleine mesure à quel point on est viré crackpot justement avec nos lois au Canada.
Mais ça, honnêtement, au Québec, on a été préservé de ça en bonne partie. C'est tant mieux. C'est vraiment un phénomène de la Colombie-Britannique, parce que même si ça relève du code criminel, c'est vraiment le premier ministre de la Colombie-Britannique qui a demandé à Justin Trudeau à l'époque de faire une exception puis de leur permettre de faire leur expérience.
Ouais.
Puis c'était de dire en fait que pour la plupart des drogues, tu aurais pu d'interpellation si tu en faisais. T'sais. Puis évidemment.
Fait que tu peux fumer du crack devant la police puis il va te laisser. Puis si ça se trouve, il va même t'en fournir du meilleur.
Ben c'est ça. Ça, c'est la première partie. T'sais. Puis c'est sûr que tu devines que s'il n'y a plus d'interpellation quand tu fais des drogues dures dans un parc, quand tu en fais dans les autobus, est-ce que tu te sentirais à l'aise d'aller avec tes enfants dans un parc, dans un autobus?
J'ai été dans un parc à English Bay, là, il y avait une seringue juste à côté de moi.
Puis tu sais, tu regardes aussi la question de est-ce qu'on va en fournir, ça c'est une autre affaire. T'sais. Toute l'idéologie de réduction des méfaits qui se base sur des prémices qui sont, à mon avis, très douteuses, selon laquelle, justement, il y a certains vices que les gens vont faire pour toujours, donc on est aussi bien de le contrôler et de l'encadrer plutôt que de le réprimer. Puis là, le résultat concret de ça en Colombie-Britannique, ça a été la politique qui appelait de safer supply, c'est-à-dire d'approvisionnement plus sécuritaire, où le gouvernement s'est mis à produire, je pense que c'était de l'héroïne dans ce cas-là, plus propre que ce qui était sur la rue, et la donner gratuitement aux addicts pour qu'ils consomment ça à la place. Mais comme de raison, le seul résultat, ça a été que les drogues qui circulaient dans les rues ont augmenté de 30%.
Ah ouais?
Parce qu'ils ont commencé, ils ont rajouté de l'offre. T'sais. Puis même, tu avais des cas où tu as des dealers qui allaient en chercher puis qui leur vendaient après.
Ben oui, c'est sûr.
C'est impossible à contrôler. Puis après, à sa face même, cette idée-là était complètement niaiseuse, mais ils l'ont quand même fait. Puis au point où David Eby, le premier ministre du NPD de Colombie-Britannique, a complètement reviré sa veste de bord. Puis quand il y a eu l'élection après, qui se faisait chauffer par le Parti conservateur de la Colombie-Britannique, qui n'existait pas, puis qui a monté vraiment en flèche à ce moment-là, il a fait campagne contre lui-même. En disant, attention, je vais être très tough contre la drogue, tout ça, alors que c'est un problème qu'il avait complètement créé lui-même. Là.
OK. Mais donc, il y a eu un revirement de situation.
Ah oui,
là,
mais parce que les progressistes eux-mêmes se sont rendus compte que c'était niaiseux ce qu'ils faisaient.
Ben, c'est l'espoir quand même qu'ils finissent par tout être confrontés.
bon point, mais idéalement, on n'embarquerait pas là-dedans.
Idéalement, parce on irait
dans
pas.
Dans des exemples comme ça, à sa face même, c'est absurde.
Ouais, c'est clair. Mais c'est dans quelles années, est-ce que tu sais? Parce que ça fait
C'est récent. C'est autour des années 2020, là, justement. La dernière campagne en Colombie-Britannique, c'est 2023-2024, je pense.
OK, c'est très récent.
Là,
d'accord. Tu as dit une statistique que je trouvais fort pertinente. Ouais. Tu disais 80%, c'est un sondage qui a été fait, je me souviens plus, mais 83% des profs américains voteraient de gauche puis c'était des chiffres assez semblables au Canada, je pense que c'était 73%, qui est donc pas une représentation de la population. Finalement, qu'est-ce que... Je sais pas si tu connais Yeonmi Park. C'est une fille qui s'est échappée. Exactement. Ouais. Puis elle a écrit un livre qui raconte ce qu'elle a vécu. Elle a fait beaucoup de podcasts. Puis elle, dans le fond, est arrivée aux États-Unis. Mm-hmm. Et elle est rentrée à l'université en disant « Yeah, c'est the land of the free, the land of the opportunity. » Puis elle s'est rendue compte que c'était pas du tout ce qu'elle s'était imaginé. Elle a été confrontée au fait qu'elle disait « Ben, vous n'êtes pas en train d'apprendre des choses. On ne vous apprend pas à réfléchir, à avoir un esprit critique. Ouais. On fait exactement ce qu'on fait en Corée du Nord. On vous endoctrine à une idéologie. Vous n'avez pas le droit de la remettre en question. Au contraire, c'est vous allez penser de cette façon-là. Et si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes dans le faux.
Ouais. »
Puis elle s'est mise à sonner l'alarme en disant que c'était extrêmement dangereux, finalement, pour une démocratie qui se dit libre.
Ouais.
Donc, ces chiffres-là, pour moi, sont vraiment parlants. Quand tu parles de 83%, c'est énorme. Ça veut dire que tout le monde pense pareil. Dans les milieux universitaires, tout le monde est de gauche.
Ouais.
Comment expliquer que ce soit pas du tout ce ratio-là avec la population? Puis comment on réconcilie ça dans les urnes?
Oui. Bien, comment expliquer que ce soit pas ça dans la population? Ben, c'est-à-dire, c'est normal que la population ait des opinions politiques qui sont diversifiées. L'anomalie, c'est quand c'est concentré à un endroit, on s'entend. Mais c'est sûr que... Bien, peut-être que c'était moins vrai à une époque où on n'avait pas les données sociopolitiques qu'on a aujourd'hui. T'sais, si, effectivement, on a une gauche politique qui se recompose autour des classes universitaires, ben c'est certain que même des gens qui étaient peut-être anticommunistes à l'époque, mais qui étaient assez progressistes sur tout le reste, d'un coup, se sont ramassés dans le nouveau camp.
Ouais.
Puis à l'inverse, je pourrais dire aussi que la plupart, en tout cas au Québec, des profs conservateurs relativement que je connais, c'est que souvent, ils ont été communistes ou marxistes à une époque, mais que ça a donné qu'ils étaient un peu nationalistes, etc. Fait qu'après, ils se sont un peu éloignés de ça, mais des histoires comme ça, j'en connais quelques-unes.
Ah ouais,
fait que dans la mesure où pour rentrer, c'était ça. Puis après, on pourrait parler aussi du mode de sélection dans les universités. En France, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je pense à une société qui est très axé sur le concours puis tout, au point où c'est un peu caricatural. Néanmoins, certainement que c'est un mode de sélection qui n'a pas les mêmes biais que celui ici, où c'est les profs de la faculté qui décident qui ils veulent engager.
Ah oui. Ben oui. Que ça marche.
Oui, c'est par cooptation. Okay. Fait qu'à partir du moment où on fonctionne comme ça...
Tu penses que moi, je t'aime bien, j'ai envie de t'avoir comme collègue.
Ben oui, ou t'es mon élève, je t'aime bien, tu deviendras ensuite mon collègue.
Wow.
Puis c'est dans une manière, tu sais, comme diraient les économistes, là, il y a des incitatifs en place, puis considérant comment le système fonctionne, c'est normal que les gens se comportent comme ça.
Ouais.
C'est pas la faute des personnes. Mais en même temps, un système comme ça, alors qu'on a une polarisation comme on a aujourd'hui, selon les lignes qu'on a aujourd'hui, c'est sûr que ça va produire ces résultats-là.
Mm-hmm.
Tu sais, puis encore une fois, des gens qui aiment se penser très éclairés, mais que si tu leur donnes le choix, les biais humains étant ce qu'ils sont, là, on s'entend toujours mieux avec des gens pensent comme nous. On aime toujours mieux être avec des gens qui pensent comme nous. T'sais, l'être humain, pour le meilleur ou pour le pire, c'est un animal un peu tribal.
Ouais.
Donc, on est comme ça. Ouais. Fait que cette structure d'incitatif-là, avec la bête humaine, va donner ce résultat-là.
Mm-hmm.
Fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose de problématique dans le processus à ce niveau-là. T'sais.
Absolument. Tu parles de l'homme ordinaire beaucoup dans ton livre, même que tu t'appelles à lui, tu considères qu'on doit revenir à l'homme ordinaire. Peux-tu expliquer qu'est-ce que tu entends par homme ordinaire, puis pourquoi est-il si important?
Bien, d'abord, je pense que la figure de l'homme ordinaire, c'est avec ça que je commence le livre, a déjà une bien meilleure réputation qu'elle a aujourd'hui. Parce que dans la mesure où on a fait des révolutions démocratiques, que ce soit en France, en Amérique du Nord, même la petite révolution qu'il y a eu au Royaume-Uni, on gardait le roi, mais quand même le Parlement du pouvoir, c'était l'idée justement que l'absolutisme était mauvais. De dire qu'il y avait juste une personne qui allait gouverner pour tout le monde en vertu d'un droit divin, ça semblait périmé à l'époque où justement il y avait quand même la naissance de certaines bourgeoisies, des gens qui étaient capables de prendre des décisions, etc. Et donc, tout l'argumentaire qui a mené aux révolutions démocratiques, c'était cette idée que ben, les gens avaient une certaine sagesse, étaient capables de se gouverner eux-mêmes, puis l'idée d'un régime par le peuple, pour le peuple, la démocratie, ça avait du sens, dans le fond. Mais pour que ça soit possible, il fallait quand même qu'il y ait cette idée qui était plus culturelle que politique, selon laquelle, justement, la manière de faire des gens normaux, la norme, la tradition qu'ils héritaient, parce que c'est ça, la plupart des gens ordinaires sont le produit d'une culture, sont le produit d'une tradition, etc. Fallait que ça soit légitime. Parce qu'à partir du moment où on considère justement que la majorité des gens sont... Ben là, on pourrait sortir toutes les phobes aujourd'hui qu'on utilise beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup, ouais.
C'est sûr qu'on pense pas que c'est eux qui devraient tout pouvoir. Si on considère justement que les Québécois sont systémiquement racistes, ben pourquoi est-ce qu'on voudrait la démocratie?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on va finir en Afrique du Sud?
Ben ouais.
Est-ce que c'est ça qui va arriver? Puis donc, à partir du moment où on n'a plus confiance dans la tradition, dans les normes que la majorité des gens incarnent, parce que justement, cette minorité éclairée qui est très contestataire, etc., qui veut révolutionner, déconstruire, est minoritaire par la force des choses.
Mm-hmm.
La plupart des gens conçoivent que c'est normal d'avoir des repères, d'avoir une ligne qui dure plus que notre propre vie dans laquelle on s'inscrit, des choses qu'on va transmettre à nos enfants. Tout ça est normal et reconnu par la plupart des gens. Et donc, à partir du moment où cette idée-là que la norme, que la culture, que les gens ordinaires ont du bon sens, sont globalement une force pour le bien. À partir du moment où ça disparaît, bien, c'est sûr que, d'abord, on remet un peu en question la démocratie aussi, mais ça a des conséquences aussi. Puis c'est là qu'on embarque dans la déconstruction. T'sais. Puis si on me demande aujourd'hui, c'est quoi l'homme ordinaire, c'est quoi le programme politique de l'homme ordinaire, je pense, c'est tout simplement de vivre dans une société qui est stable, ordonnée, donc sécuritaire par la force des choses, globalement juste, donc pas communiste, mais quand même où il y a un certain degré d'égalité entre les gens, puis enraciné dans une certaine continuité culturelle au niveau des valeurs.
Qu'on a beaucoup perdu.
Exactement. Fait qu'au final, c'est un programme politique de stabilité, puis c'est pour ça que moi, je me dis conservateur, parce que globalement, c'est ça que je défends.
Oui, je comprends.
Puis je pense qu'à une époque comme la nôtre, où on a l'impression que les choses changent extrêmement vite, on a l'impression qu'il y a certains repères qu'on avait qu'on perd, mais ça serait sage de revenir vers ce socle-là de stabilité qui, je pense... certainement peut pas être satisfaisant pour certains éclairés qui rêvent d'idéologie, de dogmatisme, etc. Mais je pense que pour la plupart des gens, ça serait quand même mieux que d'aller vers plus d'instabilité, vers plus de précarité, que ce soit matériel, mais aussi au niveau des repères, parce qu'il y a, il y a une vraie anxiété, angoisse quand on vit dans une société où on ne sait plus trop où on s'en va, quand on ne sait plus. Puis il y a une forme de confiance sociale aussi qui vient avec le fait d'avoir des mœurs, d'avoir une culture, d'avoir des traditions qui sont largement partagées.
Exact.
Puis on le sous-estime à quel point c'est vraiment un bien commun, parce que dans la mesure où je ne sais plus à quel point je peux faire confiance à mon voisin ou je ne sais pas comment interagir avec lui, puis tu sais, des codes qui sont aussi banals que de dire « est-ce que je te sers la main? » des choses comme ça. Ouais. Tout ça, là, c'est des codes culturels qui font en sorte que on sait comment interagir. On ne se connaissait pas avant que je rentre chez vous tout à l'heure, mais je savais qu'il fallait que je te serre la main.
Ouais,
là, je prends un exemple absurde,
banal,
banal, mais tu comprends l'idée. T'sais.
Oui, ou encore qu'un voisin ouvre la fenêtre et me demande hey, « il fait-tu frette? On est-tu bêche de sans coton? » Ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, je suis « yes! » Ouais, ben, tu sais, ça fait du bien. On se sent comme dans un sentiment d'appartenance. Puis ça, on le perd beaucoup. Ouais. Mon père est complètement terrorisé à l'idée qu'on se fasse assimiler comme peuple québécois. Ouais. C'est quelque chose qui vit très mal. Mm-hmm. Il m'en parle régulièrement. C'est pour ça que le français est important pour moi. C'est pour ça que ma chaîne est en français. Je fais des entrevues en anglais, mais je les traduis. Je trouve ça important de prendre en considération qu'il y a des gens qui parlent pas anglais. Puis ça fait partie... C'est sûr que la culture passe beaucoup à travers la langue. Mm-hmm. Il a fallu vraiment que je quitte le Québec pendant 1 an pour réaliser la richesse dont tu nommes. C'est que les gens, tu disais, je pense qu'ils en sont même pas conscients. Ou je me sens que tu viens de dire ça. On est parti à Vancouver pendant 1 an. On avait besoin de quitter le Québec, on commençait justement à sentir, on vivait à Montréal, puis je me sentais plus du tout comme dans ma ville, ça changeait très vite, on était dans l'Est, on était dans Hochelaga, puis c'était rendu de plus en plus anglophone, puis pas que j'ai quoi que ce soit contre les Anglos, mais c'est parce que c'est ce sentiment d'une vague, d'un tsunami qui nous déferle dessus, sans respect de comment nous on fait les choses depuis toujours. Puis quand je suis revenue de Vancouver, 1 an plus tard, là, c'était fini, tout le monde parlait anglais. C'était even the Quebecers, they would speak English with the big accent. Puis on était sur notre balcon, des fois, je me disais, c'est ces deux Québécois qui sont en train de se parler.
Mon Dieu, quelle horreur.
Ben oui, puis pourquoi? Tu sais, parce que c'est plus cool, genre. Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, toi, l'assimilation du peuple québécois?
Ben, c'est sûr, moi, mon engagement politique commençait par le nationalisme. Fait que c'est sûr, c'est une question qui m'inquiète, oui.
Ouais.
Puis je pense que c'est le meilleur exemple de comment les repères sont importants. T'sais.
Vraiment.
Puis c'est ça aussi, tu sais, c'est pas de dire que le reste du Canada devrait arrêter de parler anglais et de parler français. Moi, je pense pas que le français, c'est une meilleure langue qu'une autre, bien que je pense qu'elle est très belle. Mais c'est juste l'idée. Puis c'est pour ça que moi, j'ai toujours été un nationaliste foncièrement conservateur, dans la mesure où, pour moi, c'est toujours d'être capable de grandir dans la culture qui m'a vu naître, d'être capable justement de transmettre à mes enfants ce que j'ai vécu. Puis je pense que cette continuité-là, qui peut sembler banale pour certains, même ridicule pour d'autres, voire oppressive pour certains, c'est tellement une richesse de stabilité. Puis en fait, c'est ça qui donne du sens à nos vies. C'est ça qui fait que, justement, on n'a pas l'impression d'être trop bousculé dans l'existence, qu'on sait qu'on... C'est important d'avoir une continuité entre une journée puis une autre, une année puis une autre. Puis je pense qu'à force d'idéaliser le changement, le progrès, qui sont tous des mots qui sont très à la mode, on oublie aussi à quel point l'enracinement et l'appartenance, c'est important aussi.
Il s'agit d'avoir des enfants pour en prendre vraiment pleine mesure, hein, parce que, tu sais, nous, on est des voyageurs. Puis dès qu'on a eu des enfants, on a essayé de faire un voyage. L'hiver dernier, on est parti en van d'ici jusqu'au Mexique avec nos enfants pendant 2 mois et demi. Et, tu sais, on était sûr que nos enfants allaient être comme nous, des grands voyageurs. Mais j'ai réalisé à quel point c'était difficile pour ma fille un petit peu plus grande. Là, elle avait 4 ans et demi pendant le voyage. Puis j'ai réalisé vraiment, tu sais, on le dit, la routine, c'est important pour des enfants, l'enracinement, c'est important. Puis j'ai fait, je pense que c'était trop pour elle. Mon petit garçon, il est plus jeune, il s'est super bien adapté, mais elle s'ennuyait beaucoup. Elle s'ennuyait de son lit, elle s'ennuyait de ses amis. Elle s'ennuyait... Puis je me suis... T'sais, en fait, c'est ça, c'est juste, je me dis ce que tu nommes, c'est super important, même si on le ramène petit, ça, c'est un besoin fondamental de l'humain, tu sais. Puis on parle toujours justement de progrès puis de changement, mais tu sais, les conservateurs sont toujours vus comme les méchants de la société. Puis c'est Christian Dufour qui avait dit une fois, puis je trouvais ça vraiment brillant, il avait dit, c'est comme si tu veux une voiture qui a juste un accélérateur. Ça prend aussi un frein. Sinon, tu vas rentrer dans le mur, tu sais. Puis là, j'ai comme l'impression qu'on est vitesse grand V vers le mur.
Puis j'oserais même dire que des fois, les conservateurs devraient prendre le volant puis changer de direction. Parce que moi, juste d'aller vers justement la déconstruction, mais à 30 km/h au lieu de 120, ça me satisfait pas, tu sais.
Je suis d'accord. Puis des fois, on a un peu l'impression que c'est l'idée de Pierre Poilievre, tu sais. Ça peut être comme, je suis pas convaincue non plus de nos conservateurs. Mais en tout cas, je trouve ça quand même super pertinent ce que tu apportes par rapport à ça. Tu as survolé vite fait tantôt, tu as dit le mot démocratie, peut-être on pourrait même ça remet en question nos démocraties. je me pose la question, est-ce qu'on peut encore parler qu'on est dans une démocratie au sens, mais vraiment étymologique du terme, en ce moment, ici, trouves-tu qu'on vit des belles démocraties au Canada, au Québec?
Bien, je pense que le problème avec la démocratie aujourd'hui, je ne sais pas si c'est celui qu'on pense des fois, parce que, bon, on s'entend, il y a toutes sortes de gens qui nous répètent que c'est parce que les citoyens sont devenus trop fous, trop... Je pourrais faire la liste des épithètes, que ça marche plus, puis qu'au final, il faudrait juste que, justement, la classe managériale, les tribunaux, toutes ces institutions-là qui sont redevables envers personne prennent plus de place.
Moi, comme mon diagnostic, c'est par rapport à Trump, les élections, c'est toutes des tarés qui ont voté pour Trump. C'est un peu
notamment, sûr. Notamment. Ouais. Ben, en fait, à partir du moment où il y a un résultat qui ne satisfait pas ceux qui ont le micro, c'est ceux qui vont dire, ouais. C'est pas propre à Trump, ça existait avant.
Exact.
Ça va toujours exister d'une certaine manière.
Ouais.
Mais je pense que quand on voit la démocratie seulement entre les élus et le peuple, on manque vraiment quelque chose qui est justement tous les corps intermédiaires entre les deux. Ça, c'est celui qui travaille en politique qui parle.
Mm-hmm.
Tu sais, quand tu es élu avec un mandat, les gens pensent, à tort, que les élus ont plus de pouvoir qu'en ont.
Mm.
Parce que si tu veux changer quelque chose, des fois c'est banal, là. Mais tu as toute l'armée de juristes qui va te dire que ça se peut pas, en vertu des jugements X, Y, Z. Puis à partir du moment où, justement, c'est peut-être un peu plus culturellement conservateur, ben là, tu vas avoir toute l'armée de journalistes qui va te dire que ça n'a ouais. aucun bon sens parce que c'est donc xénophobe, whatever. Puis tu as aussi, justement, tous les universitaires qui vont pas travailler de ton bord, qui vont aller en commission parlementaire, qui vont dire que ça n'a pas de bon sens, qui vont signer des lettres ouvertes dans les journaux,
mm-hmm.
ou carrément la fonction publique va juste dire non, on le fait pas. T'sais. Ça, c'est déjà arrivé. Fait qu'à partir du moment où on est dans cette situation-là, ben, si on suppose que la démocratie, c'est que les élus soient attentifs à ce que les électeurs demandent, moi, c'est ma conception.
C'est ma conception aussi, oui.
Ben, puis le pire, c'est qu'on joue encore dans le film hypocrite où la plupart des gens, notamment dans les médias, pensent que le premier ministre, c'est un roi élu là, qui peut absolument tout faire,
ouais.
que s'il n'accomplit pas certaines choses à cause de blocages qui ne relèvent pas de son pouvoir, ça serait de sa faute à lui personnel. Fait qu'on est très prompt, je pense, à centraliser le blâme au soi-disant sommet de la pyramide. Oui, exact. Puis des fois, je me demande, là, je me dis, est-ce que tu voudrais faire de la politique? Je dis, c'est pas sûr que ça me tente d'être bouc émissaire en chef. T'sais, dans la mesure où le pouvoir que tu as réel de changer les choses, il est réel, mais il y a des périodes où c'est plus facile. T'sais, mettons, quand tu viens juste d'être élu, là, hey, les gens t'écoutent, puis tout, puis ça va bien, puis t'as de l'adhésion. Mais tu sais, c'est aussi toute l'histoire, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais c'est quelque chose qu'on dit souvent parmi les conseillers politiques. Quand tu dis, oh là, il reste juste une année, on n'est pas premier dans les sondages, hey, bonne chance pour que la machine nous suive.
Ouais, ouais, ouais.
Puis ça, est-ce que c'est démocratique d'agir comme ça? Moi, je pense que non.
Non.
Fait qu'à ce moment-là, si tu me demandes c'est quoi la réforme démocratique qu'il faudrait faire, ben oui, il faudrait redonner des pouvoirs à l'exécutif.
Mm-hmm.
Il faudrait
comme
que
aux États-Unis.
Oui, ben peut-être pas de cette manière-là, mais tu sais, non, il y a beaucoup de choses qui se font aux États-Unis en ce moment que moi, j'endose pas. N'en demeure pas moins que...
quand même séparé...
Ouais, puis est-ce que l'idée que le pouvoir exécutif soit le pouvoir prépondérant, c'est mauvais, dictatorial? Non.
Mm-hmm.
Parce que c'est celui-là qui est le dernier contre-pouvoir des électeurs.
Ouais.
Ça, il faut jamais l'oublier. Après, tu as besoin d'un administratif parce qu'il faut mettre en œuvre les réformes que tu fais, il faut que tes projets de loi soient appliqués. Mais à ce moment-là, tu sais, moi, je fais un chapitre sur le populisme vers la fin où je dis que moi, je suis assez critique quand même par rapport au discours populiste. T'sais, je veux dire, on s'entend la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je réalise quand même qu'il y a une inadéquation en ce moment entre les électeurs puis les élites, grosso modo.
Ouais.
Mais moi, je pense juste pas qu'on peut vivre dans une société sans élite. Parce que quand on est justement dans une démocratie représentative, il va toujours y avoir des représentants, il va toujours y avoir des représentés. C'est super normal. Mais à partir du moment où les représentants pensent qu'ils n'ont plus de devoir envers les représentés, là, c'est là que ça va mal.
Ouais.
Fait que moi, puis là, c'est peut-être un peu utopiste de dire ça en 2025, mais c'est sûr que moi, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir, sans dire un changement d'élite, mais au moins un plus grand pluralisme chez les élites qui ferait en sorte que on serait capable de réconcilier un peu les deux, puis que les gens n'aient pas l'impression que quand ils votent, c'est pour rien,
mm-hmm.
ou que quand ils votent pour des gens pour aller dans une direction différente que ce qu'on a fait depuis des années, il n'y ait pas encore plus de la même chose. Parce qu'à ce moment-là, bien, évidemment que ça génère du ressentiment,
ouais.
qu'on va aller vers des options toujours plus extrêmes, parce qu'on va dire, OK, ben là, si lui, ça n'a pas marché, là, pour prendre un exemple imagé, dire, OK, si le centre-droit, ça n'a pas marché, ben là, on va aller vers un parti plus à droite. Là, si la droite, ça n'a pas marché, ben là, on va aller vers un parti qui est à droite de la droite. Puis, tu sais, on peut continuer, puis on peut faire la même chose à gauche aussi.
Ouais.
Mais ça peut continuer longtemps. Puis à l'inverse, si du côté éditeur, pour ainsi dire, on fait juste regarder ces gens-là, puis qu'on dit, oh mon Dieu, c'est vraiment... tu sais, déjà, on trouvait qu'ils étaient un peu plouques, puis là, on trouve qu'ils sont dangereux, puis là, on trouve qu'on est en dérive totalitaire, puis que dans le fond, il faut enlever encore plus de pouvoir aux citoyens. Mais tu sais, on s'entend que c'est un peu... c'est un cercle super vicieux, tu sais.
Ouais.
Puis moi, je veux pas qu'on continue d'aller dans cette direction-là. Je pense qu'au contraire... C'est un vieux principe, mais c'est quand même valide quand on dit noblesse oblige. Dans la mesure où, quand tu as une position de pouvoir, tu es responsable envers quelqu'un. Oui. Ça, justement, ça ne vient pas de droit divin. Puis tout méritocratique, entre guillemets, notre système soit-il, c'est pas parce que tu t'es rendu là, puis est-ce qu'on se rend vraiment quelque part par soi-même seulement, on peut en discuter.
Mm-hmm.
Mais peu importe ce qu'il y en est, à partir du moment où tu occupes la fonction, que ce soit d'être un élu, que ce soit d'être dans une université, que ce soit dans une administration publique, dans un média, on peut faire tout le tour, ouais. Tu as une responsabilité envers les gens. Tu as une responsabilité envers la majorité des gens. Puis tu ne peux pas te comporter comme s'ils n'existaient pas, ou pire encore, comme si c'était des gens qu'il fallait rééduquer, mépriser, etc. T'sais.
Mais il y a beaucoup de ça. Il y a énormément de mépris dans la sphère publique. Tu as nommé les médias. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis profondément laissés tomber par les médias. Mm-hmm. Je pense que c'est pour ça qu'on assiste aussi à l'émergence des médias alternatifs de façon aussi... Bon, ils étaient déjà en train de se placer avant, mais je pense qu'il y a une accélération de ça parce que les gens vont chercher leur contenu ailleurs parce qu'ils sont tannés de se faire snobber et de se faire insulter. Ben oui. Par la gauche de tout le monde en parle et compagnie. Puis tout le monde ne se reconnaît pas, malheureusement, dans ce discours-là. Il faut donner une diversité de points de vue. Puis il y a quelque chose qui appauvrit vraiment le collectif en ayant comme toujours les mêmes points de vue qui sont circulés dans la sphère publique. Puis par rapport à l'identité de genre, on en a pas beaucoup parlé, mais je serais curieuse de savoir, est-ce que tu penses que... Est-ce que les gens, finalement, sont plus nombreux à pas adhérer à ces idéologies qui sont plus de gauche ou de gauche radicale, mais qui n'osent juste pas le nommer, selon toi?
Ben,
est-ce qu'il y a une autocensure?
C'est pas une question dont je parle beaucoup dans le livre, mais cela dit, je sais que quand tu sombres sur ces questions-là, c'est du 80-20.
Tu penses à ce point-là?
En tout cas, on a fait des montages dans un emploi préalable que je ne nommerai pas.
OK.
Et c'était pas mal du 80-20. T'sais.
C'est fou la quantité de gens qui hésitaient.
Oui, ben qui trouvaient qu'il y avait des dérives, là. C'est 80
c'est ça,
qui trouvaient qu'il y avait des dérives,
c'est
bien
ça.
Fait
mais
qu'on
personne
on
parle.
Est vraiment, oui, exact. Puis on est sur le schéma que je disais tout à l'heure, tu sais, je veux dire, majorité des gens qui sont pas très universitaires, pas très idéologiques, puis le petit noyau qui est très mobilisé.
Qui fait du bruit.
Ben oui, exact. Puis après, c'est les majorités agissantes qui font l'histoire, hein. C'est jamais les minorités, pardon, agissantes qui font l'histoire, c'est jamais la majorité silencieuse.
Ouais.
Fait que c'est un peu une dynamique de ça. Puis sur toutes les questions un peu de progressisme culturel, c'est un peu ça qu'on vit en ce moment. Fait que, est-ce que ça serait pas sage d'écouter un peu davantage ces gens-là?
Oui, c'est ça.
C'est sûr qu'idéalement, on aurait une classe politique qui serait plus attentive. T'sais.
Mais en tout cas, est-ce que tu as des pistes de solutions vers la fin? Tu parles justement de reprendre contact, de valoriser davantage la famille.
Mm-hmm.
Ce que je trouve vraiment intéressant parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. T'sais, moi, je fais partie de ces personnes qui ne voulaient pas d'enfants. J'étais pas fermée à outrance, mais c'était pas important pour moi. Puis j'adhérais beaucoup au discours que la planète allait imploser dans une couple de secondes. Fait que, tu sais, pourquoi avoir des enfants? Pourquoi se reproduire? Puis à un moment donné, ma mère me disait tout le temps, tu vas te priver du plus grand amour, mais sache-le. Puis un jour, c'est sûr, quand t'es depuis longtemps dans une relation, t'as comme envie d'apporter ça à autre chose, de construire un couple. On avait envie de construire une famille. On l'a pas fait par pression. De toute façon, il n'y a plus vraiment de pression sociale de se reproduire de nos jours.
Non.
Fait que le monde qui dit qu'ils font des enfants par pression, je sais pas d'où vient la pression, mais moi, je l'ai jamais ressenti. Mais c'était là qu'on était rendu. Puis je trouve ça vraiment encourageant d'entendre, en fait, un gars de ton âge qui remet au centre la famille.
Ouais.
Est-ce que t'as une belle relation avec tes parents?
Ben oui, mais on en a parlé en début d'entrevue, tu sais, moi, honnêtement...
Ben, tu les respectes, mais ça veut pas dire qu'au jour le jour, ils font partie de ton quotidien ou...
Ben là, un peu moins depuis que j'ai déménagé,
mais... oui, c'est ça. Mais t'as une belle relation,
vous
entendez bien.
Oui, beaucoup, puis honnêtement, plus ça avance, j'espère qu'ils vont écouter l'entrevue, ça va leur faire plaisir, plus ça avance, plus je me rends compte comment ça a été la plus grande chance de ma vie de grandir dans la famille que j'ai eue, puis je pense qu'on tend des fois à prendre ça pour acquis.
Oui.
Puis, tu sais, parlons de croyances de luxe, justement, tu sais, penser que la famille, c'était pas important. Puis, tu sais, bon, c'est pas une préoccupation que j'avais foncièrement, parce que j'ai eu la chance de vivre dans une famille, tu sais, très saine, avec, tu sais, des bons parents qui sont restés ensemble, qui ont toujours été très aimants, qui ont fait un effort, tu sais, pour m'amener vers toutes sortes de choses, que ce soit en matière de culture, de choses que je connaissais pas, puis qui ont fait de moi, j'espère, une personne relativement épanouie. Puis... Après, c'est justement quand tu te rends compte d'autres gens qui n'ont pas eu ces chances-là, ben, tu te dis, OK, ah, finalement, c'était peut-être plus important que je pensais.
Ouais.
C'était peut-être plus important que je pensais. Puis après, au niveau macro, Bien, c'est sûr, c'est facile de ne pas donner de l'importance à ça dans notre vision de la société quand on ne se rend pas compte à quel point c'est important.
T'sais. Oui, c'est vrai. Puis c'est pour ça que tu tenais à mettre dans tes pistes de solutions
oui,
à la fin.
Oui, puis on peut parler justement des pistes de solutions. Bon, moi, je me décris comme un conservateur. Il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais moi, j'ai décidé...
Tu l'assumes, tu l'endosses.
Oui, je l'assume. Mais je l'assume avec une twist, dans le sens que moi, je dis je suis un conservateur de bien commun. C'est-à-dire que pour moi, le conservatisme aujourd'hui, d'abord, c'est une certaine vision de la stabilité aussi qui est importante pour l'existence humaine. C'est la vision aussi plus communautarienne qu'individualiste. Puis de dire que, dans le fond, le projet, à mon avis, du conservatisme et du politique aujourd'hui, ça devrait être un peu de refaire ce cadre de stabilité-là qui a longtemps encadré la liberté et permis son exercice plus vertueux, plus positif.
Ouais.
Puis là, c'est quand on arrive à un point où on commence à dissoudre un peu ce cadre-là, qui fait en sorte qu'on n'a plus cette stabilité-là qui est nécessaire pour être vraiment libre, pour faire vraiment des choix qui sont éclairés. Ben on est ailleurs, tu sais. Fait que moi, c'est sûr, je pense que de renforcer ça, ça passe par renforcer les institutions qui nous donnent du sens, qui nous donnent la responsabilité aussi. Naturellement, la famille, c'est la première d'entre elles, tu sais.
Ouais.
C'est un peu, c'est l'école de la vertu, c'est là qu'on apprend comment agir avec d'autres. C'est aussi l'école de l'amour, c'est là qu'on apprend où qu'on peut s'abandonner pour d'autres aussi. Parce que, ben justement, parce qu'on les aime, parce que notre bien... c'est plus que notre nombril, parce qu'on a des responsabilités envers d'autres aussi, qui ont des responsabilités envers nous.
Ouais.
C'est pas vraiment notre conception de la société plus large, mais moi, je pense que ça devrait l'inspirer davantage. Puis après, cette relation-là qu'on a avec la famille comme institution de responsabilité, de vertu, etc., c'est aussi celle qu'on devrait avoir avec les institutions de la société civile. Après, c'est sûr, au Québec, puis en général, l'implication sociale, communautaire, bénévole, malheureusement, est en grande chute.
Ouais.
Je pense que ça n'aide pas la crise démocratique actuelle parce que d'avoir cette connexion plus directe avec la communauté, avec la société, avec la nation, ça fait qu'on ne peut pas avoir la même vision que justement si on est toujours en train de scroller. T'sais.
Ouais, c'est ça.
Puis juste si on le vit seulement chez nous, puis ça peut être devant la télé aussi, c'est pas forcément les médias sociaux, on a une relation qui est très, très, très distante avec la chose publique, qui n'est pas la même qu'on aurait. Puis d'une certaine manière, la nation, naturellement, c'est une autre institution envers laquelle on a des responsabilités, qui a des responsabilités envers nous.
Ouais.
Puis d'avoir cette stabilité culturelle, c'est aussi le fait qu'on a des points communs avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis ça nous rend plus prompt aussi à accepter le résultat d'une élection qui n'irait pas de notre côté. Parce qu'on dit, OK, ben c'est des gens à qui je m'identifie, des gens dont je fais partie, qui ont choisi ça. Donc, je comprends que c'est pas des gens qui instrumentalisent le processus contre moi. T'sais. Puis
je pense que le schisme est tellement grand en ce moment que j'entends... Moi, ce que j'entends, en tout cas, dans les dernières élections, j'ai entendu premièrement énormément de cynisme. Puis aussi... ces gens-là sont tellement cons, par exemple, d'avoir réélu les libéraux.
Ouais.
Je ne m'identifie plus à ce peuple. Puis là, je vois vraiment comme une vague de gens qui désirent quitter le Canada. Un peu comme on a observé aussi avec Trump, puis les démocrates qui disaient « Mon Dieu, je ne peux pas croire que Trump a été réélu. S'il vous plaît, asile au Canada. » On voit de plus en plus cette espèce de... C'est pour ça que je trouve ça un peu utopique, la version que tu as... honnêtement, j'aimerais tellement ça. Je trouve ça le fun que tu finisses sur des pistes de solutions parce que c'est bien beau présenter des problèmes. À un moment donné, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Imagine si je voyais juste des problèmes à 24 ans.
Non, mais
je me rendrais pas jusqu'à 80.
En tout cas, tu seras en grosse dépression dans pas long. Mais non, c'est ça. Il faut penser au positif. Mais concrètement, je sens que chaque micro-détail est instrumentalisé pour créer de la division davantage. Es-tu un gars? Comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui? Ah, on va débattre là-dessus.
Ouais.
T'es-tu une femme? Tu sais, tout est rendu un débat, puis on pourrait débattre jusqu'à des affaires bien plus niaiseuses que ça. Enfin, j'ai comme l'impression que, tu sais, j'aime ce que t'apportes, de dire oui, on a plus en commun les uns envers les autres. Puis j'aimerais ça recommencer à avoir ce sentiment-là d'appartenance envers le peuple québécois. Ouais. Mais tu sais, j'ai comme l'impression que le schisme, en ce moment, au moment où on se parle, est très, très grand.
Ouais.
Ceux qui se sentent abandonnés sont vraiment fâchés. Autant par le Québec que le Canada. Puis je me demande si les partis qui sont en place en ce moment ont le pouvoir de réunifier ça, parce que c'est des partis qui sont là depuis longtemps, on les connaît déjà.
Ouais.
Il n'y a pas vraiment de nouvelles idées.
Bien sûr.
Honnêtement, je me demande qu'est-ce que ça va prendre. Je souhaite que vraiment...
Ben, tu sais, c'est pas juste une question de parti politique aussi. Je pense que les intellos, les gens qui prennent la parole, un peu comme moi, ont ce devoir-là aussi, de rapporter ce discours-là qui est peut-être un peu plus apaisé aujourd'hui. Puis je pense que, tu sais, depuis, mettons, 2015, là, regarde, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses en accéléré, tu sais. 2015, c'est quoi? C'est la crise des migrants. 2016, c'est le Brexit, c'est l'élection de Donald Trump. 2020, c'est le wokisme, c'est George Floyd. C'est
la pandémie.
La pandémie, c'est justement toute l'idéologie du genre. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont mis le feu aux poudres.
T'sais. Mettons, oui. Puis, le feu est pris.
Ouais, mais c'est ça. Puis honnêtement, je me demande quand est-ce qu'on va sortir de ça. Personnellement, peut-être que c'est juste mon côté wishful thinking, mais j'ai l'impression que le feu est plus aussi virulent qu'il l'a déjà été. Puis que je pense que les gens sont tannés un petit peu.
Ouais,
en tout cas, moi, je suis à ce moment-là. Exact. Je pense que le bruit de la fureur, on en a eu en masse, que justement, malgré les désaccords qu'on a, vient d'un temps aussi où... À un moment donné, on ne veut pas s'appuyer sur la gueule à longueur de journée.
On peut serrer la main et dire comme « let's agree
to disagree ». Exactement, mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait un changement fondamental dans la mesure où on redonne une place justement à ces gens ordinaires-là. Parce que tu ne peux pas avoir une démocratie qui fonctionne contre la majorité de ses citoyens. Ça ne va jamais marcher.
En tout cas, ça va juste créer énormément de cynisme et de frustration. T'sais.
Voilà.
Tu as parlé de... Il faut que je parle de l'application Partage Club parce que ça m'a vraiment fait rire. Parce que depuis tantôt, on parle finalement de cette espèce de...
Ouais.
Mais t'es la génération qui est née avec des réseaux sociaux, toi, j'imagine que t'as connu... Ben, t'es née dans Internet.
Oui, oui, oui. Internet, ça existait avant moi, là.
C'est ça, parce que je me rappelle quand Internet est arrivé dans... T'as pas connu les connexions 56K, tu sais, qu'on se connectait sur Internet, puis...
Fait avec que... la file de téléphone?
Non? Oui! Oh, mon Dieu, non. J'ai connu ça, moi.
Ça, c'est une légende urbaine pour moi.
Non, non, puis le pire, c'est, tu sais, comme c'était tellement clair, parce que ça... le monde qui appelait chez nous, c'était occupé, fait que là, mes parents avaient plus de vie, parce que dans ce temps-là, les gens s'appelaient. Maintenant, c'est terminé ce temps-là. Mais c'est ça, c'est une application québécoise que tu me disais, ça s'appelle Partage Club. C'est écrit dans ton livre et c'est pour emprunter, genre, de la farine ou du lait à ton voisin au lieu d'aller cogner chez eux.
Ouais, ben, c'est le révélateur de quelque chose de plus large. Hein?
Vraiment, c'est pour ça que je t'en parle.
Toi, tu disais, c'est un livre sur la France, sur ailleurs. C'est aussi un livre sur le Québec, manifestement. Ouais. C'est, peut-être que ça pouvait juste exister ici. Tu sais. Puis, mais c'est ce qui passait dans l'œil du dragon l'autre jour. J'ai vu ça
m'a fait rire. OK, OK.
Puis, écoute, sûrement, c'est des entrepreneurs brillants. Tu sais, c'est pas la faute de la technologie, mais davantage des courants culturels qu'ils incarnent.
Exact.
Puis le point plus large là-dessus, c'est de dire que je pense que beaucoup de le modèle d'affaires de l'industrie numérique aujourd'hui, de beaucoup d'applications, c'est de dire comment est-ce qu'on peut supprimer le lien social puis le remplacer par quelque chose de marchandisé, de un, qui évite aussi le contact avec l'autre. Puis bon, moi typiquement Uber Eats, j'en suis extrêmement critique dans la mesure où déjà tu voulais pas te faire à manger, là t'as même plus la décence d'aller au restaurant, même pas t'asseoir là, puis te parler à d'autres mondes, là, même pas d'aller le chercher, là. Il faut qu'il te l'amène jusque chez vous, puis préférablement livraison sans contact, comme ça tu verras pas personne qui t'arrive. Il y a vraiment une tendance culturelle là-dedans, puis on pourrait dire ça de beaucoup de choses, t'sais. Puis beaucoup d'applications justement qui visent à remplacer un peu ce que jadis, parce que t'avais un réseau social plus fort, tu pouvais demander à ton voisin, tu pouvais demander à ta sœur, tu pouvais demander à ton ami de le faire. Puis là, je pense que ça en dit long, puis aussi c'est des choses qui partent dans des milieux souvent, des métropoles, etc., où les liens sociaux sont plus friables par nature. Mais c'est un peu ça qu'on est en train d'exporter au reste. T'sais. Je veux dire, une société où le tissu social est faible s'il existe encore. Et on s'entend qu'une application payante qui te sert à emprunter du sucre à ton voisin...
L'application est payante en plus?
Ben oui, il faut que tu aies un abonnement. Il faut que tes voisins soient abonnés.
Non!
Mais...
Incroyable.
C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, personne n'aurait pensé à faire ça.
Mais même aujourd'hui, je trouve ça quand même triste.
Ben, c'est clair, ben oui, ça dit quelque chose.
Ça dit quelque chose beaucoup de notre société.
Ben oui, ben oui.
Puis, tu sais, j'ai habité à Montréal 14 ans. Ma mère est venue nous rejoindre, moi puis ma soeur, quand on habitait à Montréal. Puis ma mère, c'est la fille qui parle à tout le monde dans la vie. Tu sais, elle est bien sociable. Elle vient d'une ville de 8000 habitants. Son père était politicien. Elle a eu un café. Elle connaît tout le monde par son nom dans la ville. Fait qu'elle arrive à Montréal, même attitude. Puis tout le monde la regardait comme une folle.
Ouais.
C'était comme, mon Dieu, cette femme qui nous dit bonjour quand elle s'assoit dans l'autobus, tu sais, comme si elle devait avoir quelque chose, elle doit être dangereuse. Puis ça me choquait de voir ça à chaque fois. J'étais comme, maman, arrête de dire bonjour à tout le monde, tu leur fais peur. Mais c'est ridicule, tu es obligée de dire ça à Montréal, tu imagines. Là, elle a fini par connaître tout le monde dans son bloc, puis là, ils faisaient tout à manger entre eux. Puis mais je me disais, ma mère, elle ne fit pas à Montréal.
Non.
Tu sais, je pense que moi non plus, d'une certaine façon, parce que c'est cette façon de vivre-là, pour moi, c'est pas ça le Québec.
Ouais.
C'est comme si. Je sais pas, on peut blâmer la métropole, puis tu sais, on est quand même, ça arrive ça dans ce moment, on n'est pas très loin de la métropole. Ça a été très difficile d'établir des contacts avec mes voisins, je les ai forcés, puis je suis allée porter des brownies, puis allô, tu sais, nous autres, on existe, on est les nouveaux voisins, puis tu sais, moi, j'ai envie qu'il y ait une communauté, mais je ressens pas que c'est tant que ça. Là, maintenant, tu sais, après 5 ans, là, on commence à sentir qu'ils sont contents qu'on ait établi un peu une relation, mais c'est c'est pour moi, c'est ça. C'est, ben, il y a une certaine, un certain deuil, ouais. une certaine tristesse par rapport à ce constat. Puis c'est pour ça que je voulais parler de l'application, parce que je trouve qu'elle est comme l'icône
ouais, ben oui.
de où on est rendu. On n'ose pas aller cogner chez notre voisin pour lui demander une pinte de lait. Hein? Comment qu'on en est venu là?
Non, mais il y a un vrai appauvrissement à ce niveau-là. Puis je pense que ça, ça a des conséquences sur le reste. Là.
Mais c'est quoi ta relation, toi, aux réseaux sociaux?
Ben, écoute, moi, j'aimerais ça pouvoir ne pas en avoir. Ouais, mais quand on fait ce que je fais, ben, puis je devine si c'est encore plus vrai pour toi. Je peux pas m'en priver, tu sais. Ça veut dire combien de livres je vendrais si j'avais pas de réseaux sociaux? Ben, c'est ça, tu sais, j'en vendrais zéro. Et est-ce que j'aurais publié un livre si j'en avais pas? On peut poser cette question à l'infini, tu sais. Ouais. Quand, malheureusement, t'es un peu pris pour être dans la sphère publique, tu peux pas t'en priver.
Non.
Mais après, encore une fois, on parlait des croyances de luxe. Est-ce que tous les autres devraient subir ce sacerdoce-là, tu sais? Puis, je pense que non, typiquement. Là, puis que, mais justement, que ça devrait être plus répandu.
T'es conscient que ça te rend pas forcément heureux, les réseaux sociaux.
Je suis très conscient. Très conscient.
Est-ce que t'as été élevé avec cette vigilance-là?
Je te dirais, mes parents, parce que moi, ma mère est assez sceptique par rapport à ça. Là. Puis ça, d'ailleurs, si on parle des différences un peu culturelles entre les classes sociales, si on peut dire, la méfiance par rapport aux outils technologiques, ça, c'est quelque chose de positif qui est très corrélé avec l'éducation supérieure. Puis souvent, tu sais, ça me brise le cœur, tu sais, quand tu vas dans un restaurant ou quelque chose.
Ils sont tous sur leur iPad.
Exactement. C'est comme ça. C'est pas une méthode d'éducation. Puis surtout quand ils sont très petits, tu sais, c'est très contre-indiqué.
C'est terrible.
Ben oui. Puis, ouais, c'est ça.
OK, mais au moins, tu avais cette conscience-là. Tu sais, c'est juste.
Je l'ai pas toujours eu, mais là, je le constate davantage.
Ouais. Puis est-ce qu'autour de toi, je m'imagine que tu es dans une communauté particulièrement intello, puis que, tu sais, mais est-ce que tu dirais que ta génération prend de plus en plus conscience des enjeux que tu dénonces, de ce tissu social qui est faible?
Je pense que oui. Puis justement, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose même qui dépasse les bords politiques. Puis je pense juste que quand tu as 25 ans en 2025, tu peux pas être aveugle par rapport à ça. T'sais. Puis juste, tu regardes les idéologies qui sont en vigueur chez les jeunes, qui sont les plus populaires, ou les tendances fortes. Là. Mettons, je vais t'en nommer une couple. D'abord, le virage conservateur, je pense qu'on l'a expliqué depuis un petit bout. Il y a certainement de ça derrière.
On dirait que je ne l'ai pas observé aussi... tant que ça, mais je te crois parce que tu as des chiffres. Mais je ne l'ai pas observé.
Ouais, OK.
Ouais, mais je te crois.
Mais si on parle, par exemple, de... Ah ben, attends, on va en parler juste un petit peu. Parce que ce qui est intéressant là-dessus, notamment, tu regardes les premiers qui ont voté pour Trump dans la primaire de 2015 du Parti républicain, OK? C'était appuyer Donald Trump contre Ted Cruz à l'époque.
Ouais.
C'était très inversement corrélé à l'engagement social. Très inversement corrélé au fait d'appartenir à une communauté religieuse, qui est quand même un signe d'engagement social. Là. Quand tu es pratiquant, tu as un réseau que tu côtoies chaque semaine, etc. Fait que c'est les gens isolés qui ont porté Trump au pouvoir dans le Parti républicain. Puis, considérant qu'il y a une dynamique d'isolement chez les jeunes, si les jeunes virent dans une direction, je pense pas qu'on peut dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. T'sais, dans le sens, c'est facile au moins d'inférer un lien, on peut dire ça. L'autre aspect, ben, on parle beaucoup de la montée du souverainisme chez les jeunes. Okay. Bon, on parle de ça dans les médias. Là.
Si les médias le disent.
Non, mais tu sais, tout le monde en parle. La semaine passée, il y en avait, puis on s'entend, c'est des gens souverainistes très à gauche, c'est pas ma frange du tout. Mm-hmm. Mais bon, ils sondent là-dessus, puis apparemment.
On remet
la question de l'avant. Il y a une nouvelle génération qui se pose cette question-là.
OK.
Ça me semble assez manifeste. Et toujours, quand on leur demande pourquoi, ils vont toujours te dire, c'est un besoin d'appartenance, c'est un besoin de communauté. C'est normal.
Okay.
Puis bon, est-ce que c'est la manière la plus directe de l'incarner? Peut-être pas, parce que ça reste quand même assez abstrait. Mais. Il y a de ça. T'sais. Puis, d'une certaine manière, moi, je suis persuadé que ceux qui se tournent et se sont tournés vers le wokisme, il y avait de ça aussi. T'sais, dans le sens
besoin d'appartenance.
Mais oui, d'appartenir à une communauté militante, même si elle n'est pas majoritaire, c'est une appartenance directe. Ouais.
Puis, en plus, elle est vertueuse. T'sais, si tu le fais, tu vas avoir une célébration publique.
Fait que, t'sais, je pense que peu importe de quel bord on prend la question, il y a ce besoin-là qui s'exprime. Puis en fait, la seule idéologie qui décline, c'est l'espèce de centriste libéral qui a juste les boomers qui votent encore pour. Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
C'est appelé à s'éteindre.
Ben, peut-être, hein?
Ouais.
Puis, tu sais, mettons que je suis charitable, je pourrais dire que c'est peut-être pas pour le mieux parce qu'il y a une part de stabilité qui vient avec ça. C'est insatisfaisant. Ça déconstruit beaucoup de notre culture, de notre lien social. Mais au moins, au niveau politique, ça a le mérite d'être une forme de stabilité puis de pas être... trop extrémiste, si on peut dire. Après, on utilise ce mot-là à toutes les sauces, mais tu comprends ce que je veux dire.
T'sais. Oui, c'est vrai qu'on l'utilise à toutes les sauces. Ben écoute, je pense que j'ai fait pas mal de tours de toutes les questions que j'avais. Hein, là, je regarde. Oui, pas mal ça. Mais écoute, j'ai trouvé ça super intéressant de te parler. Est-ce que, avant de terminer, bon là, tu es dans ton lancement, tu es à Montréal encore pendant quelques jours. Je te souhaite la meilleure des chances. Est-ce que
merci.
Tu veux plugger un peu ton livre puis tes réseaux, où qu'on peut te trouver, où qu'on le trouve?
Ben oui, pourquoi pas. Donc, le livre s'appelle « Anticivilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur ». C'est paru aux Presses de la Cité. Il est disponible en librairie à partir du 31 octobre, donc ce vendredi, je ne sais pas.
Ça risque d'être en ligne juste avant, oui.
Bon, exactement. Donc, on peut l'acheter dans toutes les bonnes librairies. Okay. Oui, c'est une très large diffusion avec les Presses de la Cité. Là, on n'a pas ce souci-là du tout. Okay. Donc, ça, c'est très bien. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Twitter, @EABeauregard.
Tu es sur X, hein?
Oui, beaucoup. C'est même celui que j'utilise le plus parce que les autres, tu sais, Facebook, Instagram, c'est un peu plus privé. En tout cas, c'est pas aussi public.
C'est vrai que le X, c'est parfait pour juste partager. Ouais, une...
Exactement. C'est celui qui est un peu plus confrontant aussi. Là, celui-là, on peut s'amuser. Là, ouais.
Ah, ben c'est bien quelqu'un qui n'a pas peur de X. est-ce que tu as envie de terminer sur un mot de la fin? Qu'on se laisse sur une note, un conseil que tu aurais, une lecture, peu importe. Est-ce que tu as envie de donner un conseil à ceux qui t'écoutent en ce moment?
Ben, je pense qu'un conseil, ça serait juste de lire. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être une vertu qui se perd. Ouais. D'une certaine manière, c'est un peu l'inverse hein, de scroller sur les réseaux. Moi, je dis tout le temps, TikTok, c'est l'inverse de la lecture. C'est pour ça que j'ai jamais eu de compte TikTok par ailleurs.
Ouais.
Tu sais, c'est comme le choix de quelque chose qui demande beaucoup d'attention, qui n'est pas avec plein de lumière, plein de bruit, là, qui est vraiment nécessite de se plonger dans quelque chose puis de faire abstraction du reste. Mais je pense que, premièrement, c'est très bon pour, sans dire pour l'âme, mais c'est bon pour soi d'être capable d'avoir cette capacité d'attention-là aujourd'hui, d'être capable aussi de réfléchir profondément, plus largement que ce qu'un clip d'une minute ou même un article de 300 mots pourrait nous dire, t'sais. Puis peut-être aussi lire des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, t'sais.
Ouais.
Puis moi, là-dedans, évidemment, je prends position. Tu sais, tout le monde sait que je suis un conservateur, mais j'ai quand même fait l'effort, je crois, de lire beaucoup de livres progressistes, libéraux, que je cite ensuite. Puis c'est pas toujours quelque chose que je constate quand je lis ces livres-là, notamment, ou même, même quand je parle avec des gens qui sont pas toujours d'accord avec moi. Puis moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai constaté là-dessus. J'ai fait un bac en philosophie politique. J'ai eu zéro cours sur le conservatisme. Alors que théoriquement, dans un débat politique progressiste-conservateur, tu devrais un petit peu pouvoir voir des deux côtés.
Wow.
Mais, puis tu sais, j'ai un prof que je nommerai pas, mais qui était venu me voir après quand j'avais fini le bac, puis j'avais fait remarquer. T'sais. Puis il m'avait dit, tiens, Alexandre, j'ai entendu votre point. J'aimerais ça faire au moins une séance dans un prochain cours sur les idéologies. Mais là, j'ai juste un problème. Je connais pas de bons penseurs conservateurs. Est-ce que vous pourriez m'en suggérer un? Puis là, on parle de quelqu'un qui enseigne la théorie politique depuis...
Franchement, pas prof, mais capable d'expliquer.
Ça fait des années.
Ça fait longtemps.
Mais tout ça pour dire, tu sais, quelqu'un qui...
Imagine, il en connaissait
érudit,
même pas.
Qui enseigne ça depuis des années, quelqu'un de brillant, qui était ouvert à la discussion... pour qui j'ai beaucoup d'appréciation, mais que, tiens, en toute naïveté, me confesse ça, je me dis, ah, boy, ça en dit long sur le problème de l'institution.
Exactement.
Mais tout ça pour dire, lisez des choses que vous n'aimez pas toujours.
Ouais.
Puis...
Sortez de vos biais.
Exactement, exactement.
Super, très bonne finale. Merci pour bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.